de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
11h32, ça va être une belle soirée à la salle Albert Rousseau. C'est Mike Ward qui est de passage à la salle Albert Rousseau. Fait que je m'en vais voir ce spectacle-là.
Ah, ouais. C'est dommage le fun!
C'est un bail que je n'avais pas été voir un show de Mike Ward. Puis pour moi, ça va être ce soir.
Il y avait Arnaud Soli en ville hier aussi.
Un petit verre. Ouais, je suis moins type Arnaud Soli. Je l'aime bien le suivre sur les réseaux sociaux. Mais Mike Ward, c'est
le mien. Autre que toi, là, c'était plein, je te le dis. Ouais. Les gens attendaient Arnaud Soli. Il y en a qui ont pris des billets séparés en couple. Je voyais ça. Puis c'est pas grave, ils étaient passés ensemble. Puis... Mais Mike Ward, c'est plein aussi.
Dans les dernières années, j'ai appris à découvrir Mariana Mazza. C'est dans une entrevue ici, là, en lui jasant, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller le voir son spectacle ce soir. Je m'attendais absolument à rien, puis j'avais été agréablement surpris du spectacle de Mariana Mazza. Tu sais, des fois, faut que tu l'essayes là, pour savoir si, si t'aimes ça.
Faudrait que tu fasses ça plus souvent, oui.
Ouais. Faf, là, 2-3 semaines, j'avais été le voir à Petite Chapelle. Puis, écoute, j'ai jamais ri de même de toute ma vie. Là. Puis, tu sais, je pense que son trademark à Faf, c'est venir me voir avant que je me fasse canceller.
Ouais, c'est vrai. Ça... Il connaît son contenu.
Ça s'en vient. Ça s'en vient.
En même temps, on dit que ça s'en vient depuis des années pour Faf. Là. Moi, je connais depuis peut-être 2016.
Depuis 2016, oui. Ouais. Là, il vit vraiment de son métier là, aujourd'hui. Ça a été long. Ça a été presque 10 ans, de ce que je comprends. Là, 10 ans de croisade pour réussir à vivre de ton métier. Mais il a rempli en 2 soirs, il a rempli la Petite Chapelle. Là, en 2 fois, le même soir, il a rempli la Petite Chapelle.
Wow!
C'est très cool pour lui. Fait que ce soir, c'est Mike Ward. Ton humoriste préféré, toi?
C'est ça, Mike Ward en fait partie. Stéphane Rousseau, dans les sketchs, me fait vraiment rire. Moi, c'est un gars qui il a tellement de la répartie et de la spontanéité qui me fend. La seule chose, c'est quand c'est trop organisé, ça m'intéresse moins. Puis Arnaud Soli sketch aussi énormément en spectacle. Ouais. J'ai vu son premier. J'avais pas tant ri, j'avais pas tant accroché. Je sais pas si son deuxième bon jus vaut la peine pour ceux qui trippent sur ses sketchs. Mais je suis un peu plus dans l'humour noir aussi, honnêtement, là. On dirait que c'est tout ce que je dis pas en ondes et que je ne fais pas
en ondes. Et pourtant, quand j'en fais, t'es un peu malaisé.
Non, toi, tu fais des jokes sexistes, stupides de mon oncle qui ont pas de goût puis qui sont fades.
Ouais, c'est peut-être toi qui es plate. Bon, Canadien, ce soir, j'aurai pas la chance de voir le match. C'est à 20h face aux Blues de Saint-Louis. Donc, je vais réécouter ça en mode rapide. Mais j'arrive à la maison après le show de Mike Ward.
Tu réécoutes ça?
Canadien est encore... Oui, c'est
tu
sûr.
Tu réécoutes un show qui est terminé.
Oui. Mais j'essaie de ne pas regarder mon cellulaire parce que je reçois à chaque fois qu'un joueur du Canadien ou de l'autre équipe qui joue contre le Canadien marque, j'ai une notification sur mon cellulaire.
Oh, ouais,
fait que là, je vais me mettre en mode avion au show de Mike Ward jusqu'à temps que j'arrive chez nous. Après ça, je vais regarder ça en mode rapide.
Il me semble que c'est la dernière chose.
On est passionné ou on ne l'est pas.
Okay.
Hey, histoire extrêmement triste qui est survenue hier. Puis je comprends le réflexe, là, mais en même temps, il faut en jaser en gang. C'était au kilomètre 261, direction ouest sur l'autoroute 40 à la hauteur de Portneuf. Ben ouais, c'est ça, à la hauteur de Portneuf. Une dame qui cherchait son chien s'est ramassée sur l'autoroute. Elle a traversé l'autoroute en mode piéton. Elle est allée chercher son chien. Et au moment où elle avait son chien dans les bras, il y a un véhicule qui est arrivé.
La chose la plus triste,
les deux sont morts.
Ouais. Ça n'a aucun sens.
Je lisais ça ce matin, c'est Jean-François Racine qui a écrit l'article. J'avais froid dans le dos parce que c'est le genre de réflexe qu'on a pour nos animaux de compagnie. Là, on est prêt à risquer, puis nos enfants aussi, on est prêt à risquer absolument tout pour les sauver. Puis c'est arrivé hier. La dame était en mode piéton sur l'autoroute. Elle était sortie de son véhicule pour retrouver son chien. Je ne sais pas comment son chien a pu sortir dans son véhicule. J'imagine que l'enquête qui est en cours actuellement saura nous en dire plus. Mais elle a réussi à le pogner, à l'avoir dans ses bras, puis en traversant, pouf, s'est fait frapper.
Jeune en plus, là, ça fait aucun sens.
Elle était jeune?
Oui, oui.
Quel âge, à peu près?
Mais c'est parce que ça sort pas partout. Fait que je vais m'abstenir, mais mettons, dans vingtaine, moi, c'est ce que j'ai vu.
20 ans? Oui. Calif.
Mais j'ai 23, là, dans ce que j'ai vu. Et dans les autres textes, on parle de dans la vingtaine.
Puis c'est des réflexes qu'on a, maudit. Tu sais,
suis jamais autant désorganisée qu'en cherchant un chien qui est pas le mien, que j'ai sous ma garde et qui est sorti d'une maison.
Ouais.
J'étais à moitié habillée. Puis je suis sortie en pleine... C'était le 24 heures du tour du lac à Lac-Beauport. Là.
Ouais.
C'était une grosse journée où tout le monde est dehors puis fait le tour du lac. Puis Pepe Pablo s'est éclipsé. Puis c'est un chien, lui, il va à l'aventure. Il est extraordinaire, mais il niaise un peu. Écoute, j'ai même pas pensé, est-ce que je suis bien habillée pour sortir? J'avais pas de souliers, j'avais rien. Et courir de même dans la rue, les gens pensaient que je les encourageais en criant le nom du chien. Fait que j'imagine pas quand c'est le tien en plus. Ouais.
Ça m'est arrivé avec le Golden Tata à la maison. Là.
Oui.
C'est des chiens qui ont été trop bercés trop proche du mur. Quand son bébé, ils ont tendance à vouloir aller voir le monde, ouais. C'est normal. Puis là, il se sauvait dans le quartier. À chaque fois que je m'approchais de lui, il savait que c'était pour le pogner. Fait que ça crée son camp. Fait que là, des fois, il y avait des gens qui se promenaient dans la rue. Puis là, ils tournaient autour du monde, tu sais, pour leur dire bonjour puis se faire flatter. Puis là, après ça, moi, j'arrivais, puis ils se poussaient.
Ah non. Mais ça, le truc, c'est, tu sais quoi? Moi, je l'avais fait avec mon chien Golden mélangé avec du Labrador. Tu comprendras, je comprends le comportement. Tiens, non, c'est tu y vires le dos.
Tu y vires le dos?
Si il court vers, mettons, l'ouest, là, tu le regardes quand il te regarde, quand il arrête, là, tu vires de bord, tu pars à courir, il va te courir après.
C'est ça, le truc?
C'est le ce jeu essaie-là, puis reviens-moi.
Ah ouais.
Un épais avec ses limites. Il y a une de nos collègues aussi à Montréal qui avait gardé un chien puis qui était sortie complètement nue de chez elle en pleine nuit. Elle a dit, c'est sûr que moi, je pouvais plaider des problèmes de santé mentale à ce moment-là. Salut Stéphanie. Ça me rappelle qu'elle m'avait déjà raconté cette histoire-là. Elle garde un chien qui n'est pas le sien puis il se sauve, mais en pleine rue, elle est sortie complètement nue parce qu'elle dormait. Uh-huh. Fait que c'était pendant la nuit, le chien avait envie. Elle l'envoie puis elle pense pas qu'elle comme pas pensé qu'elle l'avait pas attaché. Ben mêlée. Complètement nu, en train... Nu. Nu, 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 nu. Mais à un moment donné, il faut que tu ramasses le chien.
Ouais. T'as essayé de ne pas le perdre des yeux, là?
Elle se tenait, tu sais, pour le premier bout, mais après, il faut que tu ramasses le chien.
Ah, non. Mm. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les animaux de compagnie? Mais c'est ça, elle, ça lui a coûté la vie. Puis je te parlais de mon accident, là, peut-être 3 semaines, 1 mois, ouais. À peu près. Puis le premier réflexe des gens qui sont impliqués dans un carambolage sur l'autoroute, c'est de sortir du véhicule pour avertir les gens avec des signaux, là, avec les mains, pour ralentir, mais ça fait en sorte que tu mets ta vie en reste dans ton véhicule, c'est ta zone de sécurité.
Mais les bons samaritains aussi qui veulent aider certaines personnes sur le coin de la rue, tu sais, Doc Mayou, il a perdu sa jambe de cette manière-là. Ouais.
Doc Mayou, c'est exactement ça. Il y a une dame qui semblait avoir être dans le trouble sur le bord de la route. Il a décidé d'arrêter derrière elle. Il n'a pas donné le petit coussin de sécurité que les policiers se donnent quand ils t'interceptent sur l'autoroute là, pour pouvoir être à une certaine distance d'un véhicule qui viendrait te frapper par derrière. Puis, arrivé au coffre, de ce que je comprends, c'est qu'il a pris le pneu de rechange, puis il y a un véhicule qui est arrivé en arrière, puis il a coincé la jambe du Doc Mayou.
Tu sais, j'avais déjà une conversation en privé avec lui parce que tu sais que dans une autre vie, j'y travaillais avec. Puis il m'avait confié que ça a été quand même, les 2 premières années et autres, là, beaucoup de frustration à gérer. Tu mais beaucoup de changements de personnalité personnelle parce que tu dis crime. Effectivement, je voulais faire le bien, je voulais aider. Puis pourquoi est-ce que la vie me le renvoie de même?
Parce que la vie, c'est une salope. Elle n'est pas obligée d'être, équitable avec toi.
Ben, elle devrait.
Elle te fesse dessus, puis l'important, c'est que toi, tu te relèves, comme disait Rocky.
En train de citer Rocky.
Les towings, on se fait passer proche. Patrick qui nous écrit, ouais. Effectivement.
Mais on dirait que les gens ont perdu ce... C'est-tu moi ou...
Le fameux move-over-là, qui est en place au Québec. Il y a très peu de gens qui le font. Puis c'est une critique envers les policiers qu'on peut avoir, là. Envers pas les policiers patrouilleurs, mais plus ceux qui décident ça va être quoi les opérations cette année. Je pense que des opérations move-over-là, là, c'est-à-dire les véhicules qui font pas la zone de sécurité?
Oui, le corridor de sécurité.
Corridor de sécurité, ben tu les interceptes puis tu leur donnes des amendes. J'ai jamais vu des policiers intercepter des véhicules qui font pas leur corridor de sécurité. Puis la loi est assez simple, là, c'est que s'il y a un véhicule d'urgence qui est sur l'autoroute, qui est à droite, ben tu dois, si c'est possible, changer de voie puis aller sur la voie de gauche. Mais il y a beaucoup de monde qui le font, mais il reste un 10, 20, 30% de gens qui ne le font pas. Mm-hmm. Puis j'ai pas l'impression que l'information s'est rendue à eux.
Non, je suis d'accord, mais en même temps, je veux dire, as-tu vraiment besoin de te faire dire de pas passer à quelques mètres d'une autre personne qui est arrêtée sur le bord de la route? Je comprends là, qu'on travaille pas pour...
Ouais. Moi, j'ai commencé à le
on
faire.
On travaille pour la personne.
Moi, j'ai commencé à le faire la gang, là, à partir du moment où ça m'est arrivé. J'avais fait une crevaison, puis je devais changer un pneu.
T'as senti les secousses.
Puis c'était du côté arrière-conducteur. Fait que mon péteux, là, il était sur la troisième voie. Là. Il était sur la voie de droite. Là.
Tu sors dormir les fesses quand tu changes ton pneu.
Les véhicules, ben oui, on est planchés. Puis les véhicules, ils passent à 100 km/h à côté de toi, à genre 2 mètres, là. C'est stressant comme pas possible. Fait, j'ose pas imaginer ce que nos amis qui nous écrivent, les remorqueurs, vivent à chaque jour.
C'est de l'avoir en tête pour les autres, là, pas juste penser à vous à ce moment-là.
Exact, exact. Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Sinon, s'est-tu passé d'autres choses dans l'actualité?
J'ai envie de faire quelque chose qu'on ne fait jamais, commencer par le positif. Je souligne simplement l'anniversaire de Jeannette Bertrand, 100 ans aujourd'hui, une femme incroyable quand même, qui a l'air tout feu, tout flamme, tellement en forme encore. Je sais que vous avez passé des extraits hier là, de l'entrevue de Nathan Meyer, notre collègue, en ondes, mais je veux le souligner aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Madame Bertrand. Sinon, ben, on retourne dans la politique. Carney qui fait encore jaser aujourd'hui. Je ne me cache pas du tout, c'est ce qu'il a affirmé, hein, parce qu'on l'a accusé d'avoir tourné le dos au face-à-face pour l'émission que TVA est habituée de diffuser normalement en temps électoraux. Ce qui se passe, c'est qu'on a un genre de débat, ça s'appelle le face-à-face. L'affaire, c'est que ça coûte un montant d'argent aux partis politiques. Et là, Mark Carney a assuré que lui, avec le Parti libéral du Canada, il n'y aura pas sa présence. Ça a annulé, en fait, ce débat-là parce que c'est quand même la personnalité d'intérêt principal en ce moment pour le Canada. Je ne dis pas que c'est parce qu'il va être élu ou que ce sera lui qui va être choisi, mais c'est lui qui fait plus couler d'encre. C'est le premier ministre actuellement. C'est 75 000 $ pour faire partie de ce débat-là. Et ce qui a fait un peu rire, c'est qu'il a dit qu'il n'allait pas y participer si le Parti vert n'était pas là. Fait que là, on se dit, bon, c'est vraiment la raison, M. Carney. Donc voilà, vous êtes à jour pour ce qui en est du face-à-face.
Je trouve qu'il est mal entouré.
Qu'est-ce que t'aurais dit, toi?
J'aurais dit, je veux pas créer de précédent à travers le Canada pour ce qui est des débats des chefs. Fait que si une télé en Ontario me dit pour avoir un débat des chefs, ça me coûte 75 000, faut que je donne 75 000 aussi. Mm. Une télé en Saskatchewan fait la même affaire. Tu sais, puis Carney, c'est pas le mien. Là. Moi, je trouve que c'est un vieux monsieur qu'on a mis en place d'une autre génération qui devrait peut-être plus passer à d'autres choses. C'est pas ce genre de génération-là qui pense aux plus jeunes présentement. Cette génération-là a passé à gratte, puis les plus jeunes, adviennent que pourra, vous vous organiserez. Mais je trouve que si tu avais quelque chose à dire d'intelligent, là, c'est, savez-vous quoi? Je comprends TVA, ils ont de la difficulté présentement, mais si je le fais pour TVA, je vais devoir le faire pour toutes les télévisions privées
comme
à la
bon
grandeur du Canada.
De famille, puis c'est quoi? Mettons qu'on était dans la même équipe de stratégie de communication, j'ajouterais à ça, je serais ouvert à n'importe quelle chaîne de télévision, que ce soit un télémag ici de Québec ou autre, à faire un débat avec mes compatriotes de politique, mes collègues de politique, pour ceux qui veulent nous accueillir. Hey, imagines-tu? Comment Télémag pourrait rayonner? T'invites les chefs pour vrai. Mm-hmm. Tu le fais avec tes capacités du bord, mais tu offres quand même un débat. Je trouverais ça intéressant.
Ouais, en fait, je trouve qu'ils sont vraiment mal organisés parce que si Élections Canada voulait s'en mêler peut-être un peu plus, là, j'aurais fait un gros débat sur YouTube.
C'est aussi facile que
puis
ça.
Puis après ça, ah ouais, vous voulez passer ça à la télé généraliste ou à la télé d'État? Bien, vous reprenez le feed YouTube tout simplement, puis les gens qui seront là, ce sera des gens qui sont neutres.
Ça a caractère public, ça a caractère. Je veux dire, c'est, ça devrait être obligatoire, ça devrait être dans les réglementations. Puis il faudrait que je cherche pour Radio-Canada, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose, là.
Ben oui, c'est ils sûr vont se retourner. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir un débat, j'en suis persuadé,
oui,
mais je trouve qu'il est mal
entouré.
Il ne comprend pas toujours les questions en français. Il n'y a pas personne qui semble être à côté pour... Tu sais, on parlait de finances. Il y a eu une question qui lui a été posée qui concernait les finances publiques. Puis lui, il a pensé que c'était des finances personnelles. Ouais. Fait que là, il est embarqué sur les finances personnelles. Il est un peu mélangé.
Il faudrait un traducteur, quelque chose, une oreillette. Là, ça se peut, assurément.
Oui, l'épauler au début. Parce que, je veux dire, on l'a entendu parler en français. Là. Bon, il s'exprime pas super bien, mais au moins, l'effort est là. Mais des fois, il peut peut-être y avoir des nuances qu'il ne comprenne pas. Puis, tu sais, au moins, il fait l'effort. Mais bref, moi, c'est pas mon préféré, Mark Carney. Là, je n'aurais mis en place, peut-être un peu plus jeune, là, dans la cinquantaine ou la soixantaine. Il a quel âge, Mark Carney? Il doit être autour de 70, certain. Hein? Il a de l'air vieux.
60.
60? Mm. Oh, c'est juste qu'une tête de comptable.
Bon, Yannick, bien sûr, hein? Y a des points à surveiller aujourd'hui dans le budget du ministre des Finances. Éric Girard va le présenter cet après-midi. C'est quand même quelque chose d'important, malgré le fait qu'il n'y a personne qui accroche parce qu'on se dit un autre budget sous le Parti libéral. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on va nous amener comme différence autre que le déficit record? Bien, l'équilibre budgétaire, est-ce qu'on va tenter de l'atteindre? Est-ce qu'on va être capable avec les investissements en infrastructures, en innovation? Qu'est-ce qu'on nous réserve cet après-midi? Assurément, déficit, bien, l'année passée, on avait un trou budgétaire de 11 milliards de dollars. Ça a été du jamais vu au Québec. Ça avait créé la stupéfaction. Mais là, il y a quand même un déficit important à aller voir aussi du côté du Canada. Je te dis, Yannick, Je pense que sur tous les paliers gouvernementaux qu'on a actuellement, autant au municipal, au provincial et au fédéral, les finances, dans lesquelles je sais que c'est des enjeux et des dossiers qui sont complètement différents sur la gestion économique des choses entre ces différents paliers-là, il va falloir se parler plus que jamais. Et ça va démontrer l'assurance politique et le torque politique de nos politiciens de se dire qu'il faut s'asseoir ensemble, autant au municipal, au provincial qu'au fédéral. Mm-hmm. Peu importe si on est capable de trouver des liens économiques entre nous ou pas, il va falloir les éplucher puis faire du temps supplémentaire, quitte à se coucher tard le soir, là. La famille de ces gens-là qui vont gérer nos finances pour les prochaines années, malheureusement, va passer au cash, va attendre, justement. Mais je pense que c'est une façon et une manière de briller intensément pour ces gens-là qui vont vouloir mener à bon l'économie. Mais j'ai bien peur que ça n'arrive pas.
Moi, je le répète, à quoi ça sert de faire un budget si tu ne le respectes pas?
C'est le point.
À quoi ça sert? Hey, c'est passé quelque chose à Québec vers 15h25 hier. C'est des policiers qui ont été appelés pour intervenir auprès d'individus qui venaient de faire un accident.
Oui.
Et les individus qui étaient à l'intérieur de ce véhicule-là, dans ce cas-ci, on parle d'un homme et d'une femme autour de 30 ans, se sont sauvés direction... motel ou hôtel sur le boulevard Wilfrid Hamel, c'est là que c'est survenu. Et bon, les policiers, ils sont arrivés avec le maître chien. Ils ont rapidement localisé un des suspects. Le suspect avait 31 ans, donc c'est le gars qui conduisait. Sais-tu, il a été pris avec quoi? Watch bien le cocktail de dope qu'il avait sur lui, là. Puis les armes aussi, ça se
semblait pas être pour sa consommation personnelle. Hein?
On n'est pas dans le Bronx à New York, là. On est sur le boulevard Hamel.
Et pourtant...
À côté de la beefsteak, là.
Lui, on a mis le grappin dessus, mais c'est régulier, Yannick. Vas-y.
1,2 kg de coke sur lui, 770 grammes de meth, 814 grammes d'une substance qui ressemble à du cristal meth, 319 grammes de poudre blanche encore inconnue, 1,6 kg de ce qui pourrait être du haschich. Et on a retrouvé aussi sur lui 200 comprimés de médicaments utilisés pour les troubles érectiles, puis 38 comprimés de clonazépam.
Je sais pas combien de fois tu peux achever de Rock Johnson avec ça, là, mais d'après moi, là, il passe au cash. Là.
Sur lui, il y avait un revolver Smith & Wesson, donc un 22, un .22, chargé de 4 projectiles. Il y avait 2 cellulaires, 1 faux permis de conduire, 1 200$ en argent. Et là, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait aller voir à leur chambre d'hôtel si on peut trouver quelque chose. Donc, à l'intérieur
d'un
de la chambre d'hôtel,
pas fait le tour.
On a trouvé la femme qui était sa conjointe. Et à l'intérieur de la chambre d'hôtel, il y avait 2 fusils tronçonnés de calibre 12, une arme à impulsion électrique, 7 balles de 22 et on a retrouvé 50 comprimés de plus, de sildenafil. On dit que c'est pour les troubles érectiles. Et,
il est de tout, ce gars-là. C'est un pharmacien.
Et 6 cellulaires. Donc, les 2 individus ont été arrêtés pour possession non autorisée d'armes à feu, possession de stupéfiants dans le but de trafic, possession de faux documents et recel de plus de 5 000$. On n'est pas dans le Bronx à New York. Là. C'est directement chez nous.
Sur Hamel. J'ai le droit, je suis pharmacien. Non, mais pour vrai, il n'était pas pharmacien, mais... On fait des blagues, mais c'est rendu quelque chose. Puis les fusils tronçonnés, moi, il a fallu que je cherche à savoir c'est quoi. Si tu coupes ton canon ou encore, tu sais, tu imagines pas une tronçonneuse au bout, là. Mais ce qui m'a aussi captivé là-dedans, c'est que le clonazépam. Ça, c'est un comprimé normalement pour te relaxer. C'est un anxiolytique qui est utilisé des fois dans les crises de panique, dans l'anxiété, dans des... Bon, plusieurs situations aussi. C'est un anticonvulsant, mais... Et on est rendu dans la revente de ce produit-là qui est très, très réglementé. Tu sais, je veux dire, cocaïne, cristal meth et autres, ça passe pas par la pharmacie, là. Mais ça, oui, ça m'a un peu intrigué à savoir est-ce qu'on est en train d'en faire un genre de revente où on est en train de le créer d'un côté puis on n'aura plus le contrôle sur la qualité d'eux. En tout cas, peu importe, c'est une des premières fois que je voyais du clonazépam en comprimé... qui était saisi comme ouais. Ça. C'était pas beaucoup, là. Tu m'as dit tantôt, c'était autour de 30, 40, là.
Ouais.
Mais
à quel point t'es capable de rentrer dans une chambre d'hôtel, là?
Avec tout ça?
Avec tout ça, ben, plus les armes longues, là.
Ben, un sac de sport. C'est pas énorme, là. C'est pas super gros, les armes, peut-être, là. Je comprends que tu le caches pas dans ton pantalon, là.
Ouais.
On y croirait pas.
Puis les femmes de chambre, ils vont pas dans ta chambre à tous les jours?
Ils ont-tu le devoir de discrétion là-dessus? Je peux pas croire. Non, mais je veux dire... Tu trimbales tout ça, j'ose croire que tu as un minimum de discrétion appliquée et tu es capable d'être assez intelligent pour pas te faire le plus possible pogné. Et là, je dis pas que c'est ce que je souhaite du côté criminel, là.
T'as-tu déjà fait de quoi de mal, puis tu savais que tu venais de faire de quoi de mal, mais tu te posais la question à savoir s'il y a des gens dans l'entreprise ou encore si tes amis étaient autour de toi au courant? Quand tu te promènes avec toute cette cargaison de dope-là,
faut que tu vois ton
dans
attitude,
un pack-sac, t'es armé, puis en plus, t'as deux armes longues sur toi.
Ouais, t'es-tu stressé?
Puis tu sais qu'il y a des femmes de chambre qui rentrent.
Je suis stressé si quelqu'un n'est pas attaché en auto à côté de moi, là.
Non, mais c'est ça. Tu sais, on l'a tous déjà vécu, on a fait quelque chose de mal, puis là, on se dit, mettons, à la job. On a fait quelque chose de mal, puis là, le lendemain, t'arrives à la job, tu dis, tout le monde doit être au courant. Puis là, tu regardes les yeux des gens pour savoir si tu peux lire, à savoir s'ils sont au courant ou pas dans leurs yeux, là. On a tous déjà vécu ce moment-là, à moins que tu sois un extraterrestre. Imagine-toi, lui. Il vit constamment là-dedans, dans un motel sur le boulevard Amel.
D'après moi, le clonazépam, c'était pour lui, Yannick, là.
Je te pose la question.
Peut-être que le Viagra aussi, là.
C'est sur le boulevard Amel. Les propriétaires de motels à la grandeur du Québec, c'est pas tous des gens droite-droite. Il pourrait-tu avoir de la complicité? C'est une hypothèse.
Écoute, rendu là, je pense que l'enquête prend toutes les hypothèses possibles. Là. Si tu veux devenir enquêteur 007, peut-être qu'il en manque à Québec. Là. Va te manquer un peu de cours, mais ton idée quand même de se poser la question, je veux dire, tu peux pas mettre ça de côté.
T'sais,
tu peux pas mettre de côté ce genre d'hypothèse-là.
T'es dans un motel, puis t'as à peu près 200 clients qui cognent à ta porte par jour pour la porte 108.
Oui.
Tu peux-tu te douter de quelque chose?
Ben, si c'est fait de cette manière-là, franchement, oui, t'appelles. Hey, moi, à la limite, mon contact d'urgence, c'est le 911. Là.
Je peux ça, pas c'est croire. Ton contact d'urgence. Normalement, les gens auraient mis leur conjoint, leur père. Toi, c'est le 911.
Hey, il se passe quelque chose de bizarre. Ben, écoute, j'ai du temps libre. Là. Qu'est-ce que je te
mon dis? Contact d'urgence, c'est le 911.
Et quoi? Hey, je suis indépendante, OK? S'il m'arrive de quoi, je l'appelle moi-même.
Hey, tu sais quoi, mon premier réflexe, ça serait pas de te demander à ton contact d'urgence si t'arrive quelque chose. J'appellerais directement le 911. Si tu tombes sur un crise d'épée qui a besoin de lire sur ton cellulaire, c'est quoi ton contact d'urgence?
C'est qu'il voit le 911.
Avant d'appeler le 911.
Imagine, tu fais un accident, la police arrive, il check pour le contact d'urgence, il voit c'est eux.
Salut, canon tronçonné, c'est beaucoup plus efficace pour de la courte portée. Ouais. Exemple, quelqu'un qui entre dans la chambre d'hôtel sans avertissement.
Malheureusement.
On dirait que ça me rassure pas de vous lire.
Moi,
ce gars-là ne devait pas recevoir de petits clients chez eux. Ça devait être le gros fournisseur.
Je sais pas à quel point, moi.
Le clonazépam sert pour ceux qui font du crack et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils fument leur crack, en prennent une pilule pour enlever le désir d'en avoir plus.
Hey, ça, je ne savais pas ça. Merci d'avoir répondu à mon interrogation du pourquoi il y avait ça dans les poches du faux pharmacien.
Salut Yann, tu peux cacher l'arme dans ton pantalon. Après ça, il a comme argument pour les médicaments, pour les dysfonctions érectiles.
Ouais, c'est parce que j'ai dit que l'arme, tu pouvais peut-être le cacher dans ton pantalon, quoique...
Ouais.
Okay. Hey, on fait des blagues, mais c'est pas drôle. Puis tu as vu aussi la gang de jeunes, là, il y a quelques heures, qui ont été arrêtés.
Aux galeries, ouais.
11 jeunes de 12 à 23 ans. Bon, c'est pas pour le même genre de truc. On s'entend, ils n'ont pas trouvé une cargaison complète pour assommer un cheval. Là. Mais tu as eu besoin d'une grosse intervention policière. Là, on en parle depuis quelques heures maintenant. Mais si je remets ça dans les dernières heures qu'on vient de vivre à Québec, peux-tu prendre notre pouls un peu, là? Puis tu sais, l'histoire du gars de Amel, là, avec sa poche de hockey, on peut présumer que c'est une poche de hockey, qui est pleine de tout pour tuer de Dwayne de Rock Johnson, là. C'est une histoire parmi combien? Toi, t'es comme, hey, ça devait être le dealer de la ville.
Ça te rassure-tu qu'il y a une vingtaine de gars comme ça qui parcourent les rues à Québec?
Mais tu recules d'il y a 10 ans. Je t'aurais dit, ça ne me rassure pas, mais je ne me sens pas en danger. Tu arrives en 2025, je ne dis pas que j'ai besoin de clonazépam pour mon anxiété par rapport à ça, mais connaissant le contexte actuel du crime, avec les gangs de rue, avec ci, avec ça, d'avoir entendu et épluché beaucoup, beaucoup de conversations à travers les derniers mois, je te dirais que je trouve ça ahurissant qu'on en soit rendu là. Puis oui, j'ai peut-être un petit peu de... Mon aspect d'anxiété face à ça a peut-être changé. Je ne suis pas anxieuse au quotidien, mais je trouve que oui, c'est dangereux maintenant.
Dave qui nous écrit, il dit « Moi aussi, mon contact d'urgence, c'est le 911 parce que ma conjointe ne répond pas pour les appels inconnus. »
C'est qui,
est parfait.
Toi, ton contact d'urgence?
Mon contact d'urgence...
Et si tu me dis que c'est moi, là?
Je sais pas, je pense que j'en ai même pas.
Ben là...
J'imagine qu'ils vont contacter le 911.
Tu fais bien pitié, ça doit être la mère de tes enfants.
Contact d'urgence, non, j'en ai pas.
Mais là, fais ça. Hey, en passant à vos fiches, là,
oui.
Ça ne pas négliger, hein? Les services d'urgence s'en servent souvent.
Oui.
Remplissez vos fiches.
S'il m'arrive quelque chose, composez le 9-1. 11h56, on vient. Midi, 2 minutes, Denis Gravel qui est en place. Je suis en train de parler avec Denis de l'opération policière qui avait eu lieu à Québec sur le boulevard Ramel, un certain hôtel ou motel. On a découvert une quincaillerie assez impressionnante de dope et d'armes à feu.
C'est rendu le Far West, ça.
Moi, je me pose la question, parce qu'il y en a qui ont dit « Ah, c'est peut-être le livreur. » Moi, je pense que c'est le fournisseur, là, avec une grosse poche de rockin' même. Là, de...
Moi, je pense que c'est un vendeur.
Ah oui.
En tout cas, c'est
un pharmacien itinérant.
Je suis pas mal sûr. Vendeur ou fournisseur, il fait plus d'argent qu'un Uber Eats, c'est sûr.
Mais sauf qu'il est stressé à longueur d'année, par exemple, pas à cause du trafic.
T'es flic à Québec, ça t'inquiète-tu? Qu'il y a du monde qui se promène comme ça, aussi lourdement armé.
Ben oui. C'est sûr que c'est inquiétant. Puis, je me trompe peut-être. Je pense qu'il y a des policiers qui aiment ça, être au cœur de l'action, l'action avec un grand A. Je présume que ces policiers-là ne viennent pas travailler à Québec.
Peut-être maintenant, oui.
J'ai l'impression que des policiers qui, il y a 10 ans, ont choisi Québec,
ouais,
c'est qu'ils veulent peut-être faire plus de la prévention, de la surveillance, s'imposer quand il le faut. Là, je ne dis pas qu'ils essayent d'éviter leur métier de policier. Mais Québec est une ville tranquille, puis je me dis, le policier qui choisit Québec comme milieu de vie, comme nous autres, quand on a choisi Québec comme milieu de vie, un des arguments que Québec avait en sa faveur, c'est que c'était une ville tranquille, donc sécuritaire. C'est sûr que ça doit être terriblement stressant de constater que tu peux te faire donner un coup de shotgun alors que tu t'en vas faire ce que tu penses être une arrestation de routine, tu sais. Des affaires, tu vois à New York, à Montréal, mais à Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, probablement depuis les années 70.
Ouais, leur objectif, j'imagine, quand ils partent de chez eux le matin, c'est de revenir voir leurs enfants.
Idéalement,
le soir,
hein, ouais.
Tu sais, je pense à Catherine, qui était mon ancienne collaboratrice. Elle patrouillait sur la 73. Hein. C'est un jour, comme tous les jours, où elle patrouille sur la 73, puis elle vérifie s'il n'y a pas des vitesses excessives qui passent devant elle. Puis à un moment donné, ben, elle décide de partir après un individu qui visiblement roulait trop vite. Le gars sort, tire 2 balles. Puis elle, ça a mis fin à sa carrière de patrouilleuse alors que ça, c'était le rêve de sa vie.
Ouais. Puis tu sais, à la quantité de drogue qui semble se promener à Québec avec des gens lourdement armés et probablement à la fois nerveux, paranoïaque et crinqué, c'est sûr qu'il y en a un qui va se faire tirer à un moment donné. Pas que je le souhaite, mais tout est en place pour ça.
Si tu as de la drogue impliquée, puis de la crainte, mettons, pour te faire arrêter ou autre, je veux dire, ça te désorganise assez pour avoir des comportements de protection qui n'auraient pas normalement eu lieu dans une autre situation.
On est rendu là à Québec. On est rendu dans le Far West. Là, c'est rien qu'un char avec une personne, plus 2 personnes d'une chambre d'hôtel. Puis on a assez de pilules dans ma tête pour, fournir Limoilou au grand complet ou fournir Beauport au grand complet.
Ah, tu peux désorganiser Dwayne The Rock Johnson avec ça.
tu fuck une coupe de PH, ça c'est sûr.
Parlant de Québec, qu'est-ce qui se passe avec nos conseillers? Il y en a plusieurs qui décident d'annoncer leur départ. Jean-François Gosselin qui dit « Ben moi, c'est mon dernier mandat, puis je suis rendu là. » Il a fait quelques années avec l'ADQ, Jean-François Gosselin, puis après ça, il est rendu presque à 8 ans comme conseiller à la ville de Québec.
Je suis surpris.
Décide de quitter.
Je suis surpris, Jean-François Gosselin, parce que je trouvais que dans la position où il était, il s'est enlevé probablement tout ce qu'il stressait, puis il focussait sur développer le sport à Québec.
Ce qu'il aimait.
Oui, oui, c'est sa passion première, puis il s'en cache pas. Je me disais, en voilà un qui est placé, entre guillemets, qui est à la bonne place. Tu sais, des fois, tu essaies de trouver ta place dans la vie ou d'une job. Je me disais, tiens, lui, il a trouvé où est-ce qu'il fit dans le casse-tête, puis il doit être très heureux. J'ai été surpris d'apprendre ça, puis en même temps, j'ai été surpris de savoir qu'il avait pogné 50 ans cette année. Il a de l'air plus jeune que nous autres. Ça, c'est pas notre avantage.
Jean-François Gosselin?
Ben,
c'est peu. Il est grisonnant, là.
Ben, on est tous grisonnants.
Il est jaloux.
Ben,
non, mais là, pas, si il dit fait ça,
il va m'écrire encore sur Twitter. Il va rire encore de nous autres.
Je t'embarque pas. Je t'embarque pas là-dedans.
T'as plus de cheveux sur la tête, Denis!
Ah, t'es coquette.
Il va en parler depuis... Pendant 2 ans, là, va pas là.
Il y a de l'air plus jeune que moi. Je retire Marceau de cette
Je le prendrais comme Père Noël pour mes enfants.
André le Père Foura, ça va être ta prochaine phrase.
Là, tu pousses.
mais oui, Jean-François Gosselin a de l'air jeune. Il va avoir 50 ans, si je me trompe pas, c'est cette année ou l'année prochaine.
Exact.
C'est ce que tu as dit. Puis il veut passer à d'autres choses. C'est un homme d'affaires, Jean-François Gosselin. Il a eu sa clinique pendant des années avec sa soeur qui est malheureusement décédée, qui était atteinte de la fibrose kystique, Valérie. Puis là, il veut passer à d'autres choses. Il ne ferme pas la porte à peut-être se présenter pour un parti provincial ou fédéral. Là, visiblement, ça, il ne sera pas des élections fédérales, mais peut-être pour ce qui est des prochaines élections provinciales, il sera là. Avec quel parti pourrait fitter?
Je ne sais pas, hein?
C'est touché.
Oui, puis, mais là, il ne peut pas encore être...
Parce que je vois du Parti conservateur, hein, Jean-François Gosselin. Je vois du Parti québécois, hein, Jean-François Gosselin. Je vois aussi de la Coalition Avenir Québec.
Fait que toi, ce ne serait pas jugé opportuniste, mettons, peu importe le parti où il va. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui a traîné, là, qui a pendu au bout de son nez là, depuis qu'il a été transfuge au municipal.
S'il y a des visions pour le sport... Tu sais, je pose une question à voler de même, là. S'il y a des visions pour développer le sport au Québec, changer notre approche du sport, puis je ne sais pas, je crois Jean-François Gosselin, puis on s'échange des mondanités sur la météo, puis les remparts, puis on poursuit notre petit bout de chemin, mais il pourrait être intéressé à dire, bon, ben c'est eux autres qui vont former le prochain gouvernement. Mm-hmm. Moi, je vais leur proposer ma vision du sport, puis s'ils embarquent là-dedans, ben je vais embarquer avec eux autres. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, j'ai quelque chose à faire pour la société dans un secteur particulier. Le reste, ça me regarde pas. Moi, je me concentre sur le big prize. Je vais demander d'être ministre du sport. Je vais proposer des changements. Puis,
mais là, ça me fait rire parce que ça, c'est Gabardy qui se présente chez les conservateurs dans Charlevoix.
Oui.
Ouais, c'est exactement ce profil-là.
Je trouve ça habile, d'ailleurs, comme choix de candidature. Là, j'en ai parlé avec les filles dans le retour.
Mais c'est exactement le dit profil que tu viens de décrire.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui pourraient dire, moi, indépendamment du véhicule, si je peux développer mon bout de char... Il y a des ministres de la Santé qui ont fonctionné comme ça dans les dernières années. Évidemment, ça n'a pas marché, là. Mais de dire, OK, c'est qui fait le prochain gouvernement? Moi, j'embarque avec eux autres, puis moi, je vais essayer de sauver le système de santé. Je vois d'un meilleur œil ce genre d'opportunisme-là. Quand tu as quelque chose à contribuer ou tu as quelque chose à essayer dans un secteur, je sais pas si tu me suis. Tu sais, mettons que tu es plus à droite, puis tu te rends compte que c'est un parti de gauche qui va être le gouvernement, puis que tu décides d'embarquer avec eux autres en disant, moi, je vais développer mon secteur, mon rayon, tu sais.
Ouais.
Je comprends mieux la démarche mentale. Il y en a qui peuvent dire, c'est opportuniste en tabarnouche. Mmh. Moi, je dis, ouais, mais c'est parce que dans les estrades, il y a du monde qui a le goût de jouer sur la glace. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent contribuer, ils pensent qu'ils peuvent amener quelque chose.
Mais c'est moins opportuniste qu'un politicien de carrière, moi, je pense la que définition oui. que tu es en train d'évoquer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un principe, qui a des visions, qui a des visées, puis qui se dit, je vais tenter le coup de cette manière-là mm-hmm. parce que j'y crois, puis fondamentalement, je pense
puis,
pas
puis pourquoi. Puis il l'a fait au municipal, Jean-François Gosselin, il l'a dit. Il dit, moi, j'étais là pour que le tramway se fasse pas. Puis il est embarqué dans...
Ouais.
Il est embarqué avec le maire. Puis après ça, sur le tramway, il a décidé de ne plus s'exprimer puis de s'occuper du sport.
Exact. Fait que
c'est un peu la même démarche.
Y a-t-il une lecture? Peut-être que les auditeurs pourraient participer à la discussion, là, mais est-ce qu'on peut faire une lecture sur le fait que ça va pas super bien avec le maire actuel?
Parce
que
là, beaucoup,
c'est,
là,
c'est quatre grosses têtes qui partent. Là. C'est Pierre-Luc Lachance, c'est Steve Verrette, c'est Jean-François Gosselin, et Maude Mercier-Larouche.
Ça, c'est la bosse du RTC.
Ça, c'est la bosse du RTC qui a octroyé un boni à son employé en disant « Ouais, c'est... il y a quand même un peu de progression, mais je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup. »
Elle était ultra protégée par le maire parce que même quand le RTC a reçu un très mauvais bulletin de performance, le maire n'a pas demandé des comptes. Il a défendu le RTC en disant que c'est eux autres qui font les bulletins qui ne sont pas bons. Il a fait ce que Patrick Roy a fait hier. Les arbitres ne sont pas bons. Nous autres, on est corrects.
Puis Maude Mercier-Larouche a travaillé très longtemps avec Bruno Marchand. C'est pas juste à la Ville de Québec, cette bonne entente-là. C'était chez Centraide. Mm-hmm. Maude Mercier-Larouche a travaillé des années avec le maire chez Centraide avant qu'il arrive à la Ville de Québec.
Ça amène des points d'interrogation, là aussi, parce que avec le RTC, avec la bénédiction du maire, ben, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Puis oui, les médias vont questionner, mais à partir du moment où le maire te demande pas de compte, le navire vogue, mais c'est des grosses têtes, entre guillemets, qui décident pas mal toutes de partir en même temps. Est-ce que c'est un malheureux concours de circonstances où les dernières années ont été difficiles? Théorie. On voit comment la ville interagit avec ses propres citoyens. On va prendre un exemple récent. Des centaines de personnes reçoivent pas leur compte de taxes municipales.
Oui.
Ça commence à faire jaser, ça commence à grenouiller, commence à avoir des reportages. Puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais Là, moi, normalement, mon premier paiement, c'est le 3 mars. J'ai rien reçu encore dans mal. Je sais même pas combien je dois à la ville.
Puis souvent, faut-tu le calcul avec les montants que tu
fais? Ben oui.
Mais puis c'est une année d'augmentation.
Exact. Énorme.
Fait que là, la première réponse de la ville, ça a été « Ah, nous autres, c'est pas notre problème. On a tout chippé nos affaires, puis tout est beau. » Ben oui, mais le monde, ils savent pas combien. Ah, ils paieront des intérêts, mais qu'ils reçoivent le compte. Nous autres, on a tout fait correct.
Pas de sens.
C'était très... très condescendant, très hautain, ça manquait d'humanité. Puis une semaine plus tard, finalement, il y avait un problème. Il n'y aura pas d'intérêt sur le premier paiement de taxes municipales. Tu sais, c'était-tu compliqué dès la première réaction de pas... Puis je me demande si, à l'hôtel de ville, dans les interactions entre les conseillers, même d'une seule et même équipe, c'est-tu comme ça qu'on gère? Moi, travailler d'un milieu de même, j'aurais pas de plaisir. Là, me faire traiter comme je me fais traiter en tant que contribuable. Moi, je suis chanceux, là, il est rentré par la poste. Là, fait que j'ai organisé mes paiements, puis tout. Mais je sais pertinemment que si je reçois pas mon compte de taxes, rendu le 3 mars, je sais pas quoi faire.
On peut-tu penser que c'est pire avec même
des
collègues?
Oui, il est rentré, mais
collègues?
Je l'ai pas vu encore.
Le pauvre. On peut-tu penser que ça peut être même pire avec des collègues, vu que c'est des gens qui sont constamment avec toi, puis c'est pas eux nécessairement qui vont t'élire?
Peut-être.
Imagine.
Peut-être.
Mais, puis, en même temps, ce matin, j'écoutais l'entrevue avec Patrick Paquet, qui était avec la gang de Rage Against le matin. Je comprends plus rien. Steven Melançon, qui devient le chef du parti de Patrick Paquet. Les discussions avec Ahmad, ils se poursuivent. Patrick Paquet veut pas être maire, mais il veut rester là comme conseiller spécial aux élus. Mais ils n'ont pas de chef. Melançon accepte d'être chef, mais il va partir après.
Il y avait l'air d'un gars qui a réalisé un coup le micro ouvert. « Hey, je devrais peut-être pas faire d'entrevue, moi, cette semaine. »
Ça aurait été une bonne affaire.
Puis respecter l'ordre des affaires qu'on est supposé annoncer. Sam Ahmad qui se lance, la fusion de notre parti. Parce que là, je suis en train de tout fucker le plan parce que je bredouille des réponses qui se tiennent pas debout.
Mais
là.
Moi, là...
Donc la nouvelle, c'est...
Il fait bien rire, là.
La nouvelle, c'est le conseiller municipal Steven Melançon devient chef par intérim du parti de la deuxième opposition à l'Hôtel de Ville de Québec jusqu'au déclenchement des prochaines élections municipales. Melançon sera pas là pour ce qui est de pour être candidat à la mairie pour équipe Priorité Québec, c'est ce qu'on nous mentionne. Mais pourquoi il s'est déplacé, Patrick?
Ben, j'imagine qu'il avait le goût de jaser, mais personnellement, ben, si j'ai bien compris la patente, il y aura l'annonce de Sam Ahmad qui se lance. Et pas longtemps après, il va avoir l'annonce que le parti de Patrick Paquet va se greffer à l'équipe et au parti de Sam Ahmad. Bon, maintenant que tu sais ça, puis que tu t'en vas en entrevue, si t'es pas capable de jouer la trappe comme faut, ben, ça donne l'impression qu'il y a des fuites dans le bateau. Puis mettons que je suis Sam Ahmad, puis que ça fait un an et demi que je prépare ma présentation, puis que j'écoute ce que Patrick Paquet a fait le matin... Je suis pas content. Ouais,
parce que c'est un non-élu, Patrick Paquet. Ouais, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien.
Non, en passant,
là, on parle pas de l'homme, on parle de la gestion communicationnelle politique de Patrick Paquet, qui est particulièrement divertissante et étrange.
Ça paraissait peut-être pas, mais je l'aime beaucoup, moi aussi, Patrick Paquet. Là. C'est juste qu'à matin, il s'est fraisé solide. Là. Ça arrive, coudonc, là.
Mais c'est pas la première fois qu'il vient en entrevue et qu'il s'épivarde un peu. Non, là, les gars, soyons quand même honnêtes.
Mais tu sais, il accepte toujours de venir en entrevue et de répondre aux questions, mais la nouvelle, c'est que... Lui, il est non élu, mais il veut rester là. Mais, mais tu t'en vas avec qui? Ben, je sais pas.
Ben, moi, je viens te présumer l'ordre des choses des prochaines semaines. Je me trompe peut-être, là.
Quand j'ai parlé avec sa maman au téléphone, il m'a dit quelque chose qui me reste encore dans la tête. À partir du moment où tu pars ton propre parti, c'est toi qui mènes. C'est toi qui mets les bases du programme, c'est toi qui décides ce que tu vas mettre en place. Si tu prends un parti qui est déjà en place, tu dois vivre avec ce qui est déjà en place, incluant les employés de ce parti-là et leur passé. Fait que là, est-ce que Sam Ahmad va se greffer à eux?
Reviens à une question de base. Qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que Sam Ahmad a besoin de Patrick Paquet ou Patrick Paquet a besoin de Sam Ahmad? Moi, je trouve que la réponse, ça vient tout seul. Fait que dans ce rapport de force-là, peut-être que Patrick Paquet aurait intérêt à faire attention en entrevue. je referme.
Et de ne pas se présenter en entrevue.
Hey, ben, chance nous l'a dit.
Puis en même temps, tu sais, il va falloir qu'il y ait des gens qui fusionnent ensemble, parce que là, c'est vrai qu'il va y avoir un éparpillement du vote d'une façon ou d'une autre. Si tu as 8 partis qui se proposent pour challenger le maire Marchand, il y a de bonnes chances que le maire Marchand ait son nouveau mandat. Fait que,
ouais. Ça, il n'y aura pas tant d'opposition forte, du moins assez en plus pour ne pas le faire réélire. Puis il y a beaucoup de sujets qui s'entrecoupent de parti en parti.
Mm-hmm.
Ça vient un peu désorganiser au final.
Parce que mettons que Claude Villeneuve va chercher un 10 % du vote. Ben, c'est suffisant, amplement suffisant, pour combler un écart ou une lutte serrée entre Sam Ahmad et le maire Marchand.
Parce que l'équipe Priorité Québec, bon, le chef pour l'instant, c'est Steven Melançon, mais il sera pas candidat pour la mairie. Puis là, la formation va annoncer plus tard qui portera ses couleurs pour devenir le prochain maire de Québec. Mais le parti ne cache pas continuer les discussions avec Sam Ahmad, qui devrait lancer sous peu, lui, son propre parti.
Ce parti-là, d'après moi, dans 3 semaines, il n'existe plus.
Ouais,
mon feeling.
Ah,
là,
c'est raide, hein, pareil, c'est comme des gens qui se sont impliqués. Ben, c'est ça, la
politique. Non, mais si
là,
on trouve un objectif commun, puis un programme commun, puis que tout le monde est d'accord.
Une
moi,
coalition.
J'ai pas de
problème. On voit, ça fonctionne au provincial, vraiment, la coalition de François Legault. Il n'y a personne qui se déchire à l'interne. Tout le monde est d'accord dans les mêmes enjeux.
Puis le Québec, c'est drôlement amélioré.
Le Québec, c'est nous, comme dirait le Bloc québécois, là, vraiment. Mais honnêtement, une petite affaire, je trouve qu'on est allé vite là, par rapport à Jean-François Gosselin. Si on tasse l'homme de la politique de l'homme, quand même vu comme... Je suis pas sûre qu'il aurait été si réélu que ça.
Jean-François Gosselin?
Aux prochaines élections. Et je m'explique le pourquoi ça me vient en tête. Il a tellement fait couler d'encre quand il a changé de parti. Il a tellement fait couler d'encre quand il s'est rangé derrière le tramway. Je pense qu'il a perdu des plumes politiques et de la crédibilité auprès de l'électorat.
Ça peut être peut-être stratégique, effectivement. Ouais. Mais tu sais ça, à un moment donné, il va venir en entrevue puis on lui posera ça comme question.
Mais quand ça te tente plus puis que tu sais que tu vas te faire laver, ben tu te représentes, tu perds, puis tu t'en vas chez vous. T'annonces pas que tu t'en vas 3 mois d'avance.
Sondage élection fédérale réalisé par la presse canadienne. On place le Parti libéral à 44 % chez les électeurs qui sont déjà décidés, comparativement à 38 % pour les conservateurs. Je serais curieux de savoir au Québec là, si ça a changé le fait que Mark Carney ne veut pas se présenter à TVA pour le prochain débat. Je pense que ça a fait énormément de gens qui sont déçus. Il y en a qui disent que c'est un chicken. Il a peur de répondre à des questions en français, participer au débat en français. Mais je trouve qu'ils ont mal géré leur affaire. J'en parlais avec Pascal. Si j'étais le conseiller de Mark Carney, j'aurais dit... Non, non, la raison, c'est qu'on veut pas payer à chaque fois qu'on va passer dans une province. Donc, tu comprends, si tu arrives à TVA et tu donnes 75 000 pour faire le débat, bien, tu arrives en Ontario pour faire un débat, ils vont te redemander 75 000. Manitoba, ils vont te redemander 75 000. Tu veux pas créer de précédent.
C'est un excellent point.
Ça aurait dû s'arrêter là.
Oui, mais c'est un excellent point si les autres sont solidaires et que tout le monde dit la même chose. Si tu es tout seul à le dire, même si tu as raison, même si ton point est bon, t'as de l'air du gars qui est chicken puis qui veut pas y aller. La politique, c'est la perception, tu le sais. Puis ça, c'est sûr que ça a une influence négative. Mark Carney a un mauvais début de campagne au Québec. L'aller-retour à Montréal, parce que monsieur avait pas le temps de venir à Québec, c'est une première gaffe dans mon livre à moi. La gaffe numéro 2, ben, c'est justement, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, à partir du moment où tu dis « moi, j'embarque pas » puis que les autres embarquent, t'as de l'air fou puis t'as de l'air du gars qui a peur de débattre. Puis les lignes s'écrivaient toutes seules à 3 heures hier avec les filles. Je disais ben, « c'est sûr que les conservateurs vont dire « regardez, il veut même pas débattre à la télévision francophone. Imaginez ce gars-là négocier avec Donald Trump. » Tu sais, je veux dire, c'est donner des munitions à ton opposition. Maintenant, si tu regardes le sondage de cette semaine, alors que si on recule de 2 semaines et demie, 3 semaines, les libéraux et les conservateurs étaient à égalité dans les intentions de vote, c'est un grand bond par en avant. Ça va-tu coller toute la campagne électorale? Bien là, si on multiplie les faux pas comme ces partis-là, on va peut-être un peu plus avoir une lutte. Mais présentement, les libéraux mènent en Ontario, ils mènent en Colombie-Britannique, ils mènent au Québec. T'as juste les provinces de l'Ouest où les conservateurs sont devant. Là.
Je regardais les votes par âge, Denis, puis les gens qui sont libérales à la grandeur du Canada, c'est beaucoup les gens de 60 ans et plus.
Oui.
Parce qu'eux autres, ils veulent garder leurs acquis, tout simplement. Puis
c'est
ils veulent
ceux
pas
qui
se
votent
faire
le
couper,
plus. Hein? Ouais, c'est
ceux qui votent le plus, effectivement. Mais en même temps, c'est-tu parce que tu changes la tête du serpent que ça va être un parti qui est totalement différent. Puis j'ai ri parce qu'il y a un journaliste qui a posé des questions à Mark Carney sur ses fameuses promesses électorales de baisser les impôts, puis abolir la taxe carbone et tout ça. Puis le journaliste s'est dit, mais pourquoi vous vous êtes pas présenté chez les conservateurs?
Ouais.
Et là, il a comme été malaisé par cette question-là parce qu'il se base sur le programme du Parti conservateur pour dire, ben nous, on va faire telle affaire. Puis là, les conservateurs arrivent et ben c'était notre idée, mais savez-vous quoi? On va renchérir. Puis les conservateurs nous expliquent qu'ils vont devoir couper pour réaliser cette promesse électorale-là. Tandis que Carney dit, oui, on va abaisser les impôts, oui, on va couper la taxe carbone, mais ils ne nous expliquent pas où est-ce qu'ils vont prendre l'argent.
Il y a un auditeur hier qui me disait, en période d'incertitude, on essaye de revenir à l'essentiel, puis on reste... Puis là, je sais que c'est le mauvais mot, mais on devient conservateur. Pas conservateur comme le parti avec les pancartes, mais conservateur dans le sens... Ouais, c'est lui le premier ministre.
On est moins spontané, là.
C'était le gouvernement en place. On est en période d'incertitude. Il a de l'air un peu moins querelleur que l'autre.
Les équipes sont déjà rodés en partie.
Donc, tu sais, je comprends qu'il y a plein d'enjeux dans cette campagne électorale-là. J'ai de la misère à voir les autres. Ouais. Moi, je vois juste la guerre tarifaire puis les négos avec Donald Trump. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à sortir de ça aussi.
Poilievre va devoir se distancer de Donald Trump, va devoir parler de son équipe. Qui sera son ministre des Finances?
Ouais.
Qui sera son ministre des Affaires étrangères? Qui va négocier avec le gros orange une fois élu? Il n'aura pas le choix de le faire parce que jusqu'à maintenant, là, c'est le show Poilievre à la grandeur du Canada.
Puis il y a de l'ouvrage, puis c'est... bon, la politique étant ce qu'elle est, ça bouge, c'est comme n'importe quoi d'autre, mais tout l'ouvrage qu'il a fait en campagne de pub dans la dernière année et demie, tu prends ça, tu mets ça aux poubelles, puis tu recommences à zéro parce que les enjeux ont complètement changé, c'est plus les mêmes.
Surtout que sa stratégie politique de communication, à la base, c'était de taper sur l'autre, il proposait plus ou moins de choses, puis il rentre dans un contexte où la proposition mise de l'avant est ce que les gens recherchent.
Bien, il y a déjà un changement d'image. Il y a des observateurs plus fins que moi qui disaient que depuis quelques jours, Poilievre sourit beaucoup plus. Il s'est probablement fait dire de sourire puis d'avoir de l'air un peu moins d'un gars sur le sentier de la guerre, justement pour se distancier de Trump puis créer l'image de quelqu'un d'un peu plus accessible.
Denis, on parle de marijuana. Je ne sais pas si on a parmi nos auditeurs des consommateurs de marijuana.
Tu le sais, il y en a plein.
SQDC, 418-971-1021. Entre 2014 et 2020, dans la portion des jeunes entre 15 et 24 ans, y a-t-il une augmentation annuelle des consommateurs de marijuana, selon toi? Et si oui, de combien?
J'ai triché, j'ai regardé les réponses.
Ah, mon salaud!
Fait que je peux pas jouer. J'ai été surpris.
T'aurais dit quoi?
J'aurais dit une augmentation.
J'aurais dit effectivement aussi une augmentation. Je t'aurais dit une augmentation de à peu près 30 %.
Je serais pas allé si haut que ça, mais je serais allé pour un 10-15.
Parce que c'est rendu légal,
ben
la
oui,
marijuana.
Exact.
Mais pas pour les moins de 18 ans, mais c'est rendu légal, la marijuana. Donc, moi, dans ma tête à moi, les consommateurs de marijuana entre 15 et 24 ans avaient augmenté. Selon les statistiques qu'on peut lire chez Santé publique Québec, c'est chez les jeunes de 15 à 24 ans, ça l'a diminué de 21 %.
Et c'est le seul groupe d'âge où il y a des diminutions. Hein?
Exact.
Ouais.
Chez les 25 à 44 ans, je compare de 2014 jusqu'à 2020, on parle d'une augmentation de 31 %.
Moi, ce qui me j'ai une question en partant. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Si vous prenez plus de potes, puis vraisemblablement, vous prenez pas de bière non plus parce que ça fait grossir, c'est quoi que vous prenez? Actuellement, c'est quoi qui est en vogue? Là? C'est quoi le buzz? J'ai l'air d'un vieux monsieur là, qui essaye de comprendre. Le moche?
Le moche.
Une microdose de moche. Là.
La cocaïne?
Bien, cocaïne, c'est parce que là, si mettons, on parle à quelqu'un de 12 ans, 13 ans, 14...
C'est un peu plus rare. La fameuse drogue du viol?
GHB liquide, mettons.
GHB intentionnel.
Microdose.
Beaucoup de jeunes prennent du GHB intentionnel.
Je
sais pas,
on est où avec ça, hein?
Ben, c'est ce que je m'étais fait raconter.
Oui, dans les dernières années, effectivement.
Parce qu'il n'y a pas moins de personnes qui s'intoxiquent. Il y a clairement d'autres choses qui retiennent l'attention. Là,
donc, chez les 25 à 44 ans, de 2014 à 2020, ça a augmenté de 31 %. Et là où ça me fesse vraiment, c'est les 45 à 64 ans, plus 55 %. Et 65 ans et plus, augmentation des consommateurs de cannabis de 245
%. Wow, thing! You make my heart.
Mais celle-là me surprend.
Ben,
oui puis non.
L'augmentation du cannabis, moi, celle-là me surprend.
Ouais,
l'augmentation de la cocaïne, qui n'est pas une augmentation, selon moi, c'est une explosion, mais sidère.
Dans le texte que tu as sous les yeux, il y a des gens qui lancent un cri d'alarme versus ces chiffres-là.
Ouais.
J'ai peut-être une version trop romantique, mais moi, quelqu'un à retraite qui se tape un petit joint de pote pour se la couler douce, j'ai pas de problème
avec
ça.
Parce que tu t'imagines de même, c'est pour ça, là.
Il y en a qui ont réussi, avec l'accord des médecins, bien sûr, de substituer un médicament en fumant ou en consommant du cannabis.
Il y en a que ça marche, il y en a que ça aide pour des troubles de sommeil, des troubles d'anxiété.
Exact.
Il y en a que la drogue rend anxieux aussi. En passant, je fais pas la promotion du cannabis, je suis pas un fumeur, j'aime pas ça, je suis un buveur. Le cannabis, moi, ça me rend anxieux. Fait que c'est pas quelque chose que j'aime, je fume à peu près jamais.
Toi, ça te rend anxieux, puis pourtant, il y en a qui fument ça justement pour enlever leur anxiété. Ouais. C'est weird l'effet que ça peut faire sur chacun des individus.
Puis en même temps, ben, vu que je connais pas ça, je prends peut-être pas le bon produit quand j'en ai essayé, puis je le prends peut-être pas dans le bon contexte non plus. Mais vois-tu, c'est pas mon vice, c'est pas mon dada. Moi, c'est une petite bière en soirée, c'est ça que j'aime, tu sais.
Moi, je suis pas un consommateur, j'ai trop peur de rester accroché, là. Je suis peut-être un peu fragile. Des fois, je prends de la Coors Light, je trouve que ça pique. Mais
t'apprends shooter. Oh, c'est fort, ça!
Mais pour ce qui est des personnes âgées, là, les experts soulignent qu'il y a des risques, là. Surtout pour ce qui est des aînés, on parle de perte d'autonomie. On parle de risque de chute, de développer le cancer, de souffrir de troubles de santé mentale ou encore de problèmes cardiovasculaires et pulmonaires.
Je trouve qu'on exagère un petit peu.
Je suis pas sûr.
Je trouve qu'on exagère pas mal.
Je suis pas sûr.
Mais t'es pas sûr dans quel sens? Là, dites-vous la même affaire?
Non, non,
tout,
non,
avec
non,
des
non
mots
on se parle.
On n'est pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non.
OK.
Ouais. Non, c'est une drogue quand même que si tu prends, mettons, en inhalation, ça a des effets assez problématique à long terme. Juste sur le psychologique, c'est une drogue qui joue beaucoup, qui peut déclencher aussi. Il y a des addictions que tu te rends pas trop compte parce que t'es pas une personne, mettons, le crack, okay? Tu te mets à consommer du crack demain. La façon dont tu vas être désorganisé va être flagrante, va mener à beaucoup de comportements toxiques, nocifs, surtout en société, même criminels, voire. Le pote, non, mais quand c'est omniprésent dans ta vie, ça ralentit énormément ton métabolisme. Il y en a qui sont super efficaces et efficients quand même sur cette drogue-là, mais ça reste qu'à long terme, dans ton corps, il y a des changements. Mm. Puis les gars, parler à des gars, mettons, de ma génération qui ont beaucoup fumé au secondaire, nous, c'était très, très populaire, là, t'étais cool, là. La cigarette n'était plus cool, mais le pote était très cool au secondaire. Les dommages érectiles que ça a fait, là, c'est immense comme témoignage.
Je pense aux personnes âgées.
En fait, c'est pas immense, c'est flasque.
les pertes d'autonomie, moi.
C'est un bassin flasque
pendant
de témoignage.
Pendant la pandémie, j'ai côtoyé des personnes âgées, puis le fameux lockdown là, des personnes âgées dans les centres de personnes âgées, j'ai vu les pertes d'autonomie là, de semaine en semaine. Mm-hmm. Ça m'avait marqué, Denis. Fait que quelqu'un qui consomme régulièrement du pot et relax, ça ne tente pas nécessairement de faire trop de social ou faire des activités sportives et tout ça. Il peut y avoir une perte d'autonomie. Là-dessus, je rejoins les experts. Pour ce qui est des chutes, c'est la même chose que l'alcool. C'est un monsieur de 80 ans qui est saoul ou qui fume son petit joint, mais perte d'équilibre, merci, bonsoir. Se caser les hanches à 80 ans, c'est pas la meilleure des idées.
Le point avec lequel je suis d'accord des observations médicales, c'est dans des cas où, par exemple, t'as fumé ton petit joint dans le temps de Woodstock puis quand t'écoutais le premier album de Beau Dommage, puis depuis, t'en as pas refumé, tu sais. Puis là, tu décides que tu recommences comme dans le temps.
Ouais, les consommateurs des années 70-80 qui sont comme...
C'est parce que le taux de THC puis de la façon qu'on compose ces joints-là, ça a changé radicalement. C'est comme la personne qui décide au show de Peter Gabriel de prendre une brosse comme dans le temps qu'il est allé voir Genesis en 73 puis qu'il va se vomir le corps après deux tonnes d'un toilette publique. C'est un peu... Là, ça devient un danger. T'sais, quelqu'un qui a consommé son petit joint une fois de temps en temps toute sa vie puis qui continue de le faire à sa retraite, moi, c'est drôle, hein?
Mais tu contrôles assurément plus que ça fait sur ton corps, mais par contre, ça veut pas dire que les dommages à long terme n'existent pas.
Oui, mais ça, des dommages à long terme, là...
Quand t'as 90 ans,
moi, juste travailler avec vous, je sais que ça va mal aller dans quelques années.
C'est sûr. Tu sais, on mange du ballonné, il y a des dommages à long terme.
Oui, mais faut pas les...
J'écoutais ton doc tantôt, si on fait pas rien que manger des poires, si on va mourir à 50 ans.
Faut quand même pas négliger le fait que ça existe. Moi, ma santé mentale est clairement en décrépitude depuis que je suis ici, là.
Oui, oui, ben oui.
Faut que j'assume.
Oui, c'est bien plus grave.
Que je prends des risques.
Fume un joint, ça va mieux aller.
Côtoyer des gens normaux, nous autres, on trouve que ça te fait du bien. Parce que... pour ce qui est des tarifs, je veux pas parler des tarifs avec Donald Trump et tout ça. Là. Je veux juste parler de ce qui se passe chez nous dans nos épiceries parce qu'il semble y avoir le chaos, là, entre autres, chez Loblaws. Eux, ils annoncent des panneaux en magasin avec un nouveau logo. C'est un gros T là, dans un triangle pour dire salut à Tesla, j'imagine. Mais pour T pour tarif, ce qu'on nous dit. Puis on dit qu'on va mettre ça sur les produits. Chaque produit qui va être avec un tarif appliqué, bien, il va avoir un gros T noir dans un triangle. Le problème, c'est qu'il y a des produits de chez nous qui sont fabriqués avec des ingrédients qui proviennent des États-Unis. Donc, c'est des produits chez nous qui sont fabriqués avec des ingrédients qui proviennent de chez nous aussi.
Il y en a qui vont se faire hâter par le thé.
Ben, on va se nuire à nous-mêmes.
Probablement, puis ça va devenir compliqué aussi sur quoi tu mets un thé puis sur quoi tu n'en mets pas. Là.
Oui, tu sais, oui, effectivement. Puis je me pose la question, on serait-tu mieux juste de rien faire, de dire aux gens, ben soyez très alertes sur les produits que vous achetez. Ne les scrapez pas s'ils viennent des États-Unis, soit dit en passant. T'as entendu parler de cette vague à Montréal de gens qui faisaient le tour des épiceries, puis quand ils voyaient un produit des États-Unis, ils l'écrapoutissaient.
C'est qu'il y a du monde qui n'ont rien à faire. Dans
non,
ce...
ils comprennent on pas non plus que l'épicier de leur coin
on
va.
On salue les gens de Québec
de
solidaire.
Ouais, c'est quoi mais... qui arrive à l'UQAM? Là? Ils ont défait les tentes de camping. Là, ce monde-là, je cherche des affaires à faire.
C'est des escouades qui sont organisées à Montréal, puis là, ils rentrent en gang dans l'épicerie. Puis là, ils font le tour des produits, puis là, quand ils voient un produit des États-Unis, ou bien ils vont poquer la canette.
OK, OK, vous avez raison. Le cannabis cause des dommages irréversibles. Je me rends à ton argument.
Mais soyons logiques, tu sais. Ouais. Soyons juste logiques. Mais... ne nous nuisons pas à nous-mêmes. Tu sais, le food professor dit... écoutez, là, on comprend là, les efforts que les gens veulent faire pour acheter local, puis c'est parfait, mais il y a des produits qui peuvent être étiquetés avec un gros T comme tarif, mais qui sont produits chez nous ici et vous allez nous nuire à nous. Là.
Puis juste avant, ben, l'Office de protection du consommateur avertissait que c'est pas parce que c'est écrit « fait au Canada » que c'est fait au Canada, puis c'est pas parce que c'est écrit « fait au Québec » que c'est fait au Québec. Bref, ça vient qu'on ne sait plus, mais des gens qui décident de se conscientiser, il y a du travail énorme qui a été faite dans les dernières semaines. Je sais qu'il y a des groupes Facebook. Je sais que la presse, à tous les jours, prend un produit. Là, mettons les céleris. Hein? Si tu veux acheter des céleris québécois, puis le lendemain, ils font les antisudorifiques. Fait que quelqu'un de conscientisé va faire son travail, puis il va faire ses affaires. Puis pour le reste, ben.
Ça va être écrit, faites vos recherches chez les produits.
Oui, c'est parce que pour le reste, l'été ne vont pas nous démêler plus qu'on est mêlé là.
Il y a un auditeur qui dit si j'achète un pâté de viande ici, puis que l'assiette d'aluminium est américaine, va-t-il y avoir un gros thé dessus?
Arrêtez, je trouve ça tellement important
faut
malgré
que tu,
tout.
Faut
qu'on
que
en
tu punches l'assiette, mais faut pas que tu défasses le pâté. C'est compliqué.
OK,
là.
C'est assez.
Ben, la bière de ta microbrasserie québécoise
oui.
est dans une canette d'aluminium.
La bière de ma microbrasserie. La Coors Light, c'est...
mettons, prends n'importe quelle autre. Une petite blonde de la souche.
Oui.
Est dans une canette d'aluminium.
Oui.
L'aluminium vient d'ici.
Oui.
Il est transformé où?
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Fait qu'on met un gros thé dessus, mais on se nuit à nous-mêmes.
Fait que là, tu vas avoir une bière de la souche avec un thé dessus. Ça marche pas. Ça marche
mais
pas.
Non, t'auras pas ça.
Non, je suis un peu d'accord avec le food professor là-dessus. Là. Soyez logique dans vos achats, puis ça va bien aller. Midi 34, Denis Gravel, on te coûte à 14h.
À tantôt.
Qui va gagner ce soir entre le Canadien et les Blues de Saint-Louis?
Hey, quel match! Les deux équipes qui se battent pour une place en série. On va y aller avec le Canadien.
Pis les Blues, c'est pas mal l'équipe de l'heure,
ouais,
ce temps-ci.
Oui, avec le CH.
Tu y vas avec le Canadien?
Oui, oui, oui. Un genre de 4-3.
On
là,
va
quelque
réussir
chose
à se réchapper. À ce temps que les Bruins sont poches, il veut retransférer.
Il a pas l'air de vouloir changer de camp, par exemple.
Non.
Non, je vis le bonheur
c'est
de mes enfants.
Mon ex, il était peut-être tanné, mais il était retourné avec une fille.
Vous avez plus, il n'y a plus de cœur chez les Bruins, là.
Oh,
Patrice Bergeron est parti. Brad Marchand a été échangé. Il te reste plus rien, Denis.
Je sais. Jeremy Swayman vous laisse battre.
Pense à Cole Caulfield. Ouais. Pense à Slavkovski. Pense à Suzuki. Pense à Arbor Jacky. Pense à Florian qui s'en vient. Florian Jacky.
Si jamais je reviens avec le Canadien, là, toutes les explications logiques pour devenir un partisan des Bruins, ça tient plus et je deviens un opportuniste politique et je veux pas être
Tu vas avoir un tête sur toi.
Hey, bon après-midi, M. Gosselin.
Salut. Bridge against le
matin. Il y a ça deux semaines, on vous disait que le printemps s'en venait.
Il s'en vient.
Oui.
C'est
on
un petit aparté.
On parle encore de 2-3 cm de neige pour ce soir et cette nuit, ainsi que demain.
Ça
donc, on
ne
lâche
pas.
Maximum de plus 2 pour aujourd'hui actuellement sur Québec. On l'a atteint. Donc, on est à 2 degrés. Ce soir, des nuages. 40% de probabilité d'averse de neige. À minimum de 0. Demain, mercredi, alternance soleil et de nuages. En matinée, on parle de neige. Donc, 2 cm annoncés. Maximum de plus 3. Jeudi, ensoleillé, maximum de plus 4. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente, maximum de moins 1. Jérémy Guillot, le spécialiste en politique, il est stratège politique. Salut, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
On est content de te jaser. Beaucoup d'actions au niveau de la politique. Nous autres, à Québec, là, ça brasse au municipal. Beaucoup de gens mentionnent dans les derniers jours qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections municipales. Provincial, ça brasse avec François Legault. Et du côté du fédéral, ben là, on est en pleine campagne électorale, tout en étant en négociation avec le Grand Orange, l'autre bord. Il y en a de l'action. Tu manques pas de sujet?
On manque pas de sujet, surtout depuis janvier. Depuis que Justin Trudeau a décidé de démissionner, là, ça brasse. L'arrivée de Donald Trump, la chefferie libérale. C'est comme si Donald Trump avait réussi quelque chose d'assez inédit au Québec, de rendre la politique fédérale intéressante. Puis moi, ça, ben, ça fait mon grand bonheur.
Ouais, t'es sûr que les gens accrochent vraiment? Parce que nous autres, on est comme excités. Il y a des gens qui ont embarqué dans le train, mais à quel point?
Tu sais, j'ai jamais eu autant de questions. Quand les gens viennent nous parler, il y a comme un intérêt renouvelé. Parce que la chose américaine, la menace tarifaire de Donald Trump, j'ai comme l'impression que ça rend la politique fédérale très concrète. On a tendance à dire, oh, le fédéral, c'est loin de nous autres, ça gère pas nos écoles, ça gère pas notre système de santé, ça gère pas la collecte des ordures comme les municipalités, ça gère pas les parcs, ça gère quoi? Dans le fond, on le sait pas trop. Mais là, dans le contexte actuel, avec la menace tarifaire de Donald Trump, avec la situation géopolitique à l'international qui se passe, c'est comme si les gens porter davantage attention à ce qui se passe.
C'est comme si, puis bien honnêtement, là, je considère pas les Américains comme étant des ennemis, là, mais c'est comme si on avait un ennemi commun à la grandeur du Canada. Puis là, on voulait savoir qui allait être celui qui allait se bagarrer dans le ring contre le gros orange l'autre bord.
Mais une des raisons pourquoi le nationalisme canadien n'a jamais été très, très fort, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de se défendre dans la vie. Depuis la Confédération en 1867, oui, on a participé à des grandes guerres internationales, on est allé aider nos alliés en Europe, mais on n'a jamais vraiment eu à défendre la souveraineté de notre territoire. On n'a jamais vraiment eu à se défendre face aux États-Unis. Et là, c'est comme si, soudainement, il y a une montée du fédéralisme, une montée du sentiment identitaire canadien, parce qu'on a besoin de se défendre. On appelle ça une guerre commerciale avec les États-Unis. On sent qu'il y a un besoin d'annexion, un désir d'annexion qui est lancé. Moi, je dis souvent, une fois, c'est une blague. Deux fois, c'est une mauvaise blague. Trois fois, il y a peut-être un fond de sérieux. Là, ouais. Donc, c'est important de prendre ces menaces-là sérieusement. Même si on s'entend, ça arrivera probablement pas. Mais tu sais, quand je prends une bière avec des chums et qu'on est rendu au point de se dire, t'irais-tu te battre, toi, pour le Canada? C'est rendu. Mais c'est rendu particulier, pareil.
C'est pas fou de réfléchir ouais. quand même. Mais moi, je me dis, on a-tu été. Je m'excuse du terme, là, mais c'est celui qui est imbécile. Je pourrais dire imbécile, ça paraît comme moins sauvage et violent, mais imbécile de s'être assis sur une genre de protection qui était réservée par des alliés. Est-ce qu'on est imbécile de ne pas avoir travaillé en amont ou c'est quelque chose qui est colonisé dans nous? Je m'excuse, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'était notre grand frère. On le voyait vraiment comme le grand frère.
Oui, mais on est un peu colonisé, je veux dire, de ne pas avoir travaillé en amont sur des choses qui sont de base.
Ouais. Là. En même temps, moi, je n'irais pas jusqu'à où
c'est
vous
parfait.
Allez. Mais
nous autres, on fait un spectacle, là, Jérémy. Là.
Pour une fois que c'est... Jérémy, pour une fois que c'est Pascal qui est toxique, hein? tu peux-tu y dire?
Non, mais moi, je m'embarquerai pas là-dedans, mais c'est vrai que dans l'histoire, on a tendance... En même temps, plus on investit en sécurité, ouais. moins on investit à renforcer le filet social, moins on met d'argent ouais. dans un système de santé universel,
mais
moins on met d'argent dans
les bases, on les a peut-être échappés. Mettons que je retourne un bon français.
Ben, en même temps, je veux dire, c'était pas la priorité non plus des Canadiens. Les politiciens vont souvent avec la priorité des Canadiens. Là, on voit que la question de l'ingérence étrangère refait surface aujourd'hui dans la campagne. Mark Carney fait une annonce en sécurité nationale pendant la journée. Donc, on voit que ça prend une grande place. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé autant de défense dans une campagne électorale.
Tu sais, puis tout est arrivé en même temps. Il y avait la guerre tarifaire avec les États-Unis contre le Canada, contre le Mexique, puis il y avait eu le tournoi des quatre nations, puis j'ai jamais vu autant de gens qui s'intéressaient pas au hockey s'intéresser à ce match-là entre le Canada et les États-Unis. C'est comme si...
J'ai jamais vu autant de gens chanter l'hymne national canadien, point final.
Oui, oui. Puis le match aussi qui avait débuté avec des bagarres, c'était comme n'importe quoi. Puis on est encore là-dedans. Mais c'est ça, les Canadiens semblent avoir trouvé un ennemi commun, puis tout le monde s'est rassemblé derrière le drapeau canadien. Puis là, reste à savoir qui sera le grand chef là, qui va remporter les élections dans quelques semaines. Y a-tu des bons coups et des moins bons coups dans les dernières heures, les derniers jours que tu voudrais nous jaser, Jérémy?
Des bons coups, ben tout le monde promet une baisse d'impôts. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie bons coups. Je pense que c'est plus la surenchère de le mien est meilleur que le tien. Là, les conservateurs et les libéraux proposent des baisses d'impôts sur le premier palier. Donc ça veut dire que tout le monde en bénéficierait. Des moins bons coups, il y en a eu des deux bords. D'abord, Pierre Poilievre qui a refusé l'accès à sa caravane aux médias. Et ensuite, Mark Carney qui a décliné l'invitation de TVA pour le débat du face-à-face. Faut le dire, il va avoir un débat en français. Il va avoir un débat en français, un débat en anglais qui est organisé par le consortium des médias, duquel TVA ne fait pas partie. TVA, on sait que c'est difficile dans le milieu des médias, demandait une cotisation de 75 000 $ par partie pour avoir accès à ce débat-là, pour organiser ce débat-là. On s'entend, ça a l'air gros, 300 000 $ pour organiser un débat, mais je suis pas mal certain que ça aurait coûté plus cher que ça à TVA de l'organiser. En même temps, on a envie de dire, ben si vous voulez que ça se fasse entrer dans le consortium, il y a comme tout plein de questions sous-jacentes. Eh bien, celui qui a l'odieux de refuser, c'est Mark Carney, parce que les libéraux font le pari que ça va être linguistiquement très difficile pour Mark Carney de se démarquer dans un contexte où il aurait été, par exemple, dans un face-à-face 20 minutes contre Pierre Poilievre, 20 minutes contre Yves-François Blanchet, alors que le français de Mark Carney n'est pas tout à fait au point.
Tu sais, j'en parlais avec...
C'est une question logistique, hein?
Oui, j'en parlais avec...
C'est une question logistique en arrière de ça.
J'en parlais avec Pascal tantôt en début d'émission pour ce qui est de Mark Carney. J'ai l'impression qu'il n'a pas été super bien conseillé parce que moi, j'aurais donné la raison, c'est-à-dire on ne veut pas créer de précédent à la grandeur du Canada, c'est-à-dire chaque fois qu'on veut faire un débat, il faut déplier 75 000 $. Le 75 000 $, c'est de l'argent qui appartient à nos membres qui nous ont donné. Fait qu'on veut l'utiliser de façon judicieuse, puis de donner constamment dans chaque province un 75 000 $, on n'en finira pas. J'aurais utilisé ce prétexte-là, mais de l'autre côté, Jérémy, dire non...
Appeler un chat, là. À un moment donné, il faut dire...
Dire non à TVA.
Les vraies affaires.
Dire non à TVA, là, je ne sais pas si toi... Ben, je ne veux pas t'embarquer là-dedans, tiens. Ce que j'ai remarqué, c'est que les papiers sur Mark Carney sont moins positifs qu'ils étaient depuis son refus, là.
C'est sûr que c'est dangereux de dire non à TVA.
Exact.
En même temps, moi, comme je le disais, Pierre Poilievre aussi a dit non à TVA. Là. Raymond Filion, puis les journalistes qui couvrent la colline parlementaire n'ont pas accès à sa caravane.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un mauvais coup des deux côtés. Je ne sais pas si ça va coller à l'image de Mark Carney. Certainement, mais on a vu tous les partis s'insurger. On a vu le Bloc québécois prendre une planche de 2x4 puis commencer à swinguer fort. C'est sûr et certain. En même temps, l'équipe de Mark Carney font le pari qu'ils sont tellement installés confortablement en avance que ce qui pourrait faire mal à Mark Carney encore plus, c'est une mauvaise performance au TVA face à face.
Là, il va avoir un débat en français.
Il va avoir un TVA, il va avoir un débat en anglais. Mais tu peux difficilement te remettre d'un KO face à face au Québec.
Je comprends. En même temps, je veux dire, il va falloir qu'il aille faire un débat. Il ne peut pas tous les tasser, les repousser du revers de la main.
Non, mais en fait, il y a déjà... Il y a peut-être un petit peu à préciser, mais il en fait, là. Il va avoir un débat en français, un débat en anglais. C'est une campagne qui est très, très courte. On parle de 36 jours de campagne. Là-dedans, il y a le 16 et le 17 avril où ce que Mark Carney va être au débat à Montréal. Donc ça veut dire que ces jours-là, il n'est pas en train de faire une campagne. Si on ajoutait en plus de ça le 9 avril un débat à Montréal, ben là, il aurait été à Montréal le 7, le 8, le 9, le 15, le 16, le 17. Ajoutez à ça le vote par anticipation, puis le vote, le jour du vote, vous perdez à peu près un tiers de votre campagne à vous préparer pour des débats électoraux à la place d'être sur le terrain. Donc, ça aussi, ça l'a pesé probablement dans la balance du côté des libéraux.
Oui, si je te disais cette affirmation-là suivante, c'est-à-dire Poilievre doit se distancer de Donald Trump et Mark Carney doit de se distancer du programme du Parti conservateur. Est-ce que tu es d'accord?
Ah ben, en fait, Mark Carney doit se distancer de l'ère de Justin Trudeau. C'est probablement ça qu'il essaie de faire.
Mais de faire des promesses qui appartiennent aux conservateurs, je trouve ça particulier. Tellement qu'il y a un journaliste qui a demandé à Mark Carney dans les dernières heures, ben là, l'histoire des baisses d'impôts et tout ça, pourquoi vous n'êtes pas présenté pour le Parti conservateur, tout simplement? C'est l'abolition de la taxe carbone et tout ça. Puis Mark Carney a semblé très gêné par la question. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il se distance de ça, là, puis qu'il ressemble peut-être plus au programme des libéraux en tant que tel.
J'appelle Mark Carney le Stephen Harper libéral. Mark Carney, c'est un conservateur économique et un libéral social. Donc, c'est probablement plus un libéral comme on a pu voir par le passé, notamment avec un Paul Martin. Justin Trudeau aussi, par ailleurs, avait fait des baisses de taxes. Là, je pense pas que le Parti conservateur a le monopole sur les baisses de taxes. Vous rappelez aussi qu'en 1991, c'est le Parti conservateur de Brian Mulroney qui avait mis la TPS en place. Donc, c'est pas juste le parti qui coupe des taxes dans la vie. Il en a mis par le passé. Mais Mark Carney va devoir se distancer de l'ère de Justin Trudeau sans tourner complètement le dos aux progressistes, parce que ce qui fait en sorte que le vote rouge est très fort présentement, c'est que il y a des voteurs du NPD et du Bloc québécois qui ont transféré chez les libéraux. Donc, faut pas perdre ça en chemin. De l'autre côté, Pierre Poilievre, il y a des électrons libres dans son camp. Pensons notamment à Daniel Smith en entrevue qui a dit avoir demandé à Donald Trump d'arrêter les attaques sur le Canada parce que M. Poilievre et lui sont sur la même longueur d'onde. Ça l'aide pas Pierre Poilievre dans sa campagne, parce que c'est sûr et certain que les libéraux vont en faire leur chou gras, vont répéter ça ad nauseam pendant la campagne. Donc, M. Poilievre, qui avait bien réussi jusqu'à date à essayer quand même de garder Donald Trump à une certaine distance de bras, là, ben, se fait un peu, c'est un tir ami qui reçoit, parce que Mme Smith est dans son camp et là va dire quelque chose comme ça, ça lui fait très mal. Alors qu'à l'inverse, Doug Ford en Ontario, lui, reste assis sur ses deux mains. Sa machine électorale a eu la commande de ne pas faire campagne avec Pierre Poilievre. Donc, il faut qu'il conjugue à la fois dans son camp ceux qui aiment ce qu'ils voient au sud de la frontière et ceux qui n'aiment pas ce qu'ils voient au sud de la frontière.
Je regardais le sondage d'Anos là, qui parlait des intentions de vote par tranche d'âge. Les 18 à 29 ans, c'est le Parti conservateur qui trône à 40% contre 23% pour le Parti libéral. Les 30 à 39 ans, c'est 35% Parti conservateur contre 26% pour le Parti libéral. 40 à 49 ans, c'est presque 40% pour le Parti conservateur, 30% pour le Parti libéral. Là, la catégorie 50-59, ça commence à se ressembler pas mal. C'est 43% pour le Parti conservateur, 34% pour le Parti libéral. Et les 60 ans et plus, Jérémy Guillaume, ce qui m'a impressionné, c'est que les libéraux qui trônent au sommet avec 50% des gens de 60 ans et plus qui veulent le Parti libéral. Exact, c'est eux qui votent, contrairement à 29%. Est-ce que Pierre Poilievre devrait parler aux plus vieux?
Pierre Poilievre, il y a un problème de message en ce moment. Moi, souvent, quand j'analyse un événement politique, je me fais une grille dans mon cahier, puis je me dis ce que je veux voir. Puis pour Pierre Poilievre, ce que je voulais voir depuis le début de la campagne, c'est est-ce qu'il est capable de faire un pivot dans son discours? Il nous sert du remarché qu'on a entendu depuis les deux dernières années. Est-ce qu'il est capable d'adoucir le ton et de se présenter plus en premier ministre qu'en chef de l'opposition? Parce que quand on agit comme un chef de l'opposition, souvent, c'est la meilleure façon de rester. Pour l'instant, j'ai pas vu ça encore. Et l'autre chose que je voulais voir, c'était est-ce qu'il est capable de nous présenter une équipe? Parce que M. Poilievre, il arrive souvent seul, et ça non plus. Donc, pour moi, s'il est pas capable de faire ces trois choses-là, ça va être difficile de prendre davantage de votes, parce que le vote des conservateurs, il est relativement stable depuis les dernières semaines, les derniers mois. Il bouge pas, le vote des conservateurs, mais c'est comme s'il avait frappé un plafond qui est plus bas que le plafond des libéraux. On voit en plus la situation au Québec. En ce moment, au Québec, c'est quelque chose d'intéressant qui se passe, parce que le dernier léger place les libéraux à 41% et le Bloc québécois à 23%. Ça me fait penser au résultat des élections de 2011. Le Bloc québécois était à 23% et le NPD était à 42% lors de la vague électorale, lors de la vague orange en 2011. Ça, c'est un territoire qui est très dangereux pour le Bloc, parce que quand on flirte avec la ligne du 23-24% au Bloc québécois, des fois, c'est un pourcentage qui fait toute la différence entre perdre une dizaine de sièges. Donc là, c'est pour ça qu'on va commencer à avoir un Yves-François Blanchet peut-être plus nerveux, plus combatif aussi.
Il n'est pas déjà... Il y en a qui ont sorti leur jingle, dont c'est le Bloc, je pense, qui l'a sorti dans les dernières heures. Pas leur meilleur, ça aurait pu être un petit peu plus dynamique. Mais en terminant, Jérémy, j'ai une question.
C'est jamais bon, des jingles de campagne.
Pardon?
Moi, j'ai jamais aimé ça.
Pardon?
Ben, c'est bon, ça peut faire rire.
Pardon?
Mais c'est très rare qu'on dise « Oh wow, quel bon jingle! »
Moi, c'est parmi mes délices politiques favoris. Je te dirais, si c'est pas la première position, ça va être la deuxième. mais honnêtement, Jérémy, c'est ta première fois, je pense, hors campagne, implication politique du genre, t'es en arrière des politiciens pour gérer cette dite campagne-là. Comment tu te sens dans l'analyse de tout ça? Est-ce que c'est une grande différence d'être derrière que d'être dans l'analyse en ce moment?
C'est la première fois depuis 2012, effectivement, donc depuis 13 ans, que je ne fais pas une campagne impliquée d'une façon ou d'une autre en politique. C'est bizarre. Au début, j'ai un peu eu le sentiment d'avoir peur de manquer quelque chose. Je commence à m'y faire. C'est intéressant de l'analyser. Puis honnêtement, j'aurais pas pu choisir une meilleure campagne, je pense, au niveau rebondissement pour suivre de l'extérieur.
Non, ça bouge comme pas possible. Puis on manque pas de contenu pour cette campagne électorale fédérale-là. Puis je pense pas que ça s'estompe jusqu'à temps qu'on mette au pouvoir celui qui sera choisi par les Canadiens. Jérémy Guillaume, c'est toujours un plaisir.
Ben merci, c'est toujours un plaisir pareillement pour moi.
Puis je m'excuse pour Pascal, des fois elle est raide un peu.
Ah, franchement! J'en profite.
Salut.
On a du fun. Bye-bye.
Salut, merci.
Hey, t'étais content que je sois toxique pour une fois?
Ben oui, ça super. Brasse. J'aime moi, ça quand ça brasse.
Moi, je t'inquiète.
Pourquoi?
Si t'étais content de quelque chose de ma part, ouais. Je suis inquiète, faut que je revoie un peu mon énergie.
Mais t'es-tu d'accord avec moi que le tournoi des quatre nations, là, il a été suivi comme pas possible au Canada en raison du contexte actuel? Il y a des gens qui ne suivent pas le hockey, qui étaient intéressés par le tournoi des quatre nations.
Mais Reg et moi, c'était ça.
Les matchs entre le Canada et les États-Unis.
Reg et moi, on est devenus deux personnes. On a changé de personnalité. Fait que je peux pas croire qu'on est les seuls.
Ah, c'est vrai. Tu voulais qu'à la finale, tu voulais que les gars se battent. Je te disais non, Pascal. Non,
ça, c'est
pas bon.
J'ai été toxique dans les dernières secondes, mais pas à ce point-là.
Midi 58. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit, les amis sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. On vient.
Un show concis.
You know, and for sure, I think.
Un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
13h06, Pat Raymond du podcast Financièrement parlant est en studio. On va parler d'affaires, on va parler de finances. Juste avant, vous parler d'un des classiques de Boulevard, c'est la promotion Rock and Ball qui revient, qui est officiellement lancée cette semaine. La partie rock, c'est vraiment un show de Linkin Park. Donc, deux billets pour le nouveau show de Linkin Park, le 1er août au TD Garden.
Avec
avant
la nouvelle
même
chanteuse,
leur passage
là,
au Québec. Oui, la nouvelle chanteuse va être là. Sinon, ce ne serait pas Linkin Park. Le côté ball, ce serait... on ajoute deux billets là-dessus pour les Red Sox au célèbre Fenway Park le 2 août prochain. C'est contre les Astros de Houston. Inclut le vol, l'hébergement. On vous donne 500$ en argent de poche aussi parce qu'on fait les choses en grand, nous autres, à la station. Pour participer, c'est assez simple. Dès que vous entendez une chanson de Linkin Park, vous allez inscrire l'heure de la diffusion au blvd.fm. Il y a un finaliste qui sera nommé chaque jour dans Gravel dans le retour parmi toutes les inscriptions reçues aujourd'hui jusqu'au 17 avril prochain. 3 participations par jour qui sont permises. Donc, plus tu écoutes Boulevard, plus tu maximises les chances de gagner. Aussi, en collaboration avec Knockin' Tires et la belle gang de Rage Against le matin, ben, on va vous gâter au hasard parmi toutes les inscriptions pour qui se sont inscrits au blvd.fm. Ben, on va vous offrir des pneus neuf cet été. Ça vaut jusqu'à 1000$. Et tout ça, c'est possible grâce à Knockin' Tires et la belle gang de chez Desharnais Pneus et Mécanique. Donc, bonne chance à tout le monde. Pat Raymond, comment ça va?
Oui, ça va bien, vous autres?
On me dit que quand tu parlais, tu avais une intelligence émotionnelle.
Il semblait avoir une intelligence émotionnelle, ouais, hein? Effectivement.
Mais qui a dit ça?
C'est moi. Pascal. Pascal.
Ah, Pascal.
Hein. Elle a dit ça de l'air doux.
Ouais,
oui.
Elle a beaucoup de discernement.
J'ai
une intelligence émotionnelle. Je sais pas si... ça a-tu un lien avec le QI en général?
Non.
Je pense que je suis fonctionnel, mais...
Non, c'est un type d'intelligence.
Mais c'est un type d'intelligence.
Ça se dit bien sur Tinder, j'ai un QI fonctionnel.
J'ai un QI fonctionnel.
Mais ça mérite d'être honnête.
Mais l'intelligence émotionnelle, là, c'est drôle qu'on commence avec ça, puis c'était pas prévu, évidemment. Je pense que c'est recherché aussi dans plein d'entreprises. Dans des industries où on cherche des gens qui sont capables de connecter avec les autres personnes, de dire bonjour d'un ascenseur sans mettre l'autre personne en crise, entre guillemets. Tu sais, c'est comme l'art de relation, hein, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre.
Mais j'ai l'impression que c'est une des intelligences les plus sous-estimées, mais assurément les plus difficiles à acquérir.
Y a-t-il de la place pour les émotions en bourse, en affaires?
Pas les émotions.
Avec l'argent?
En bourse. Tu vois, j'ai beaucoup de questions. Puis de ce temps-ci, il y a peut-être deux questions qu'on va tenter de répondre brièvement. Et bien sûr, vous allez voir vos spécialistes, vos professionnels pour la suite. Moi, je suis là pour vous titiller. Moi, j'ai le beau rôle, moi. Je vous titille, puis après ça, vous allez voir vos planificateurs,
on appelle
vos comptables,
ça un agace,
vos fiscalistes. Je suis un agace financier.
J'en ai pogné un, moi, un agace financier. Hein? Au marché aux puces Jean Talon dans le temps, Nous autres, à chaque année, avec la gang de chums que tu as connu au galop de lutte, là, Pascal, on faisait un échange de cadeaux, puis c'était le pire cadeau que tu pouvais offrir à quelqu'un.
C'est bon, ça devait être épouvantable entre vous.
À la fin de la soirée, c'était le cadeau voleur. Là, on pouvait échanger et tout ça. Mm-hmm. Fait que là, moi, je me ramassais souvent dans un marché aux puces, puis là, je croise un marchand qui vend des tableaux, et sur un des tableaux, il y a comme... de l'aménagement. T'sais, il pouvait avoir un poisson qui avait été mis sur un tableau. Là. C'était le premier poisson qu'il avait pêché, qu'il avait fait empailler. Puis il y avait ça. Puis je dis, quel cadeau intéressant à donner à mon chum Max. Ce qui fait en sorte que je veux acheter ça. Fait que là, je prends ça. Ben, quel poisson, là. Ça ressemblait d'une truite.
C'est à moi, ça.
Ouais. Hein? Et là, je m'en vais voir le gars. Je dis, bonjour, c'est combien? Mais au lieu de me dire le prix, il me dit, il dit ça, c'est le premier poisson que j'ai pêché avec mon grand-père. C'était à la rivière Untel.
Pourquoi il vend?
Et là, c'est ça. Là, je me suis dit, Chris, ça va coûter une fortune. J'étais au marché aux puces. Je ne veux pas payer 300$ pour un cadeau de
famille qui ne me concerne même pas.
Un cadeau de marde, là.
Pour une blague.
et là, lui me parle de ça avec émotion. Tu sais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ce truc-là.
Mais t'as rien demandé, là.
Non. Puis là, je me dis...
Lui, il n'avait pas d'intelligence émotionnelle, mais surtout pas d'intelligence sociale.
Tu sais, mon budget, c'était genre 20$ ou 30$, là. Mais là, je me suis dit, je n'aurais pas assez. Fait que là, à la fin de son mélodrame de 10 minutes, je dis, puis là, vous le vendez? Il dit, oui, je te le vends. Je dis, c'est combien? Il dit, c'est 10$. Fait que j'ai donné le 10$.
Il aimait ça, grand-père?
J'ai donné le 10$, puis après ça, j'étais perplexe. Je me suis dit, c'est-tu le genre de mythomane qui m'ont inventé une astifie d'histoire pour me vendre ça, pour que je l'achète?
Puis t'as l'impression que c'est vraiment pas cher pour tout ça, là.
Puis là, j'ai pour 10$. J'achète son souvenir d'enfance, là. C'est son premier poisson qu'il a pêché. Mais lui, c'est ça. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est
non, ça? Non. Ça s'appelle la manipulation.
Moi, j'appelle ça de la crosse, non?
OK. Hey, on se pose la question la ensemble, Pat. Moi et Pascal, on achète un Lotomax. 50 millions de dollars. Puis là, je m'en vais voir un gars comme toi, comme Pat Raymond, un chroniqueur financier. C'est le gars du podcast Financièrement parlant. Tu nous dis quoi? Dans quoi je pourrais investir ce 20...
Mais là, on l'a acheté ensemble.
On l'a acheté à deux.
On
l'a acheté à deux, c'est 50 millions. Qu'est-ce que Pascal va faire avec son 100 000 $?
Attends que je t'entends vivant, toi.
On voit que c'est équitable.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec un gros montant qui nous tombe?
Non, mais un gros
ça?
Montant, mettons que ce serait 20-25 millions.
Ouais.
Évidemment qu'il y aurait probablement une maison personnelle dans ma déclinaison de placement. Là. Il y aurait une maison personnelle de quelques millions payée cash en libérant une marge de crédit hypothécaire disponible pour réinvestir. Puis tout ça.
Mais parce ça serait que... pas mieux d'acheter, mettons, plusieurs maisons?
Parce que la maison, elle va être exemptée d'impôts à la revente. Puis on a un beau levier, on a un beau montant pour faire quand même un rendement qui peut être intéressant. Dans cette gamme de prix-là, on a quand même 75% de ces ventes-là qui sont payées pratiquement comptant. Ça prend des sous pour acheter une maison de 4 millions, alors qu'une maison de 800 000, ça prend juste une job, là. Une bonne job, vous allez me dire, mais quand même, t'as pas besoin d'être
riche. Tu vas te faire lancer des tomates, mais toute celle de la sauce savoura, va t'arriver d'en face, je te jure.
Pour faire réagir. Ça prend des textos.
Pascal, mais pourquoi t'as pas de maison de 800 000, toi?
Ah, j'ai pas de job, je suis bénévole aussi.
Et sur un programme gouvernemental.
Non, mais tu sais, aujourd'hui, avec différents programmes, la SCHL, avec 5%, tu peux acheter une maison de 300 000. 400 000
en bas de 500 000 avec 5%, au-delà de 500 000, c'est 10, puis après ça, ça y va. Puis il y a plein de programmes qui existent pour... Tu sais, les programmes sont tous faits pour faire vendre, c'est-à-dire acheter des maisons, mais il n'y a pas d'offres. Fait que ça prend... Il y a un déséquilibre au niveau de l'économie. Mais si on revient à notre déclinaison, c'est qu'il y aurait une partie comme ça, il y aurait probablement une autre bonne partie dans les marchés boursiers, selon l'horizon de placement. C'est toujours ça. J'ai quelqu'un qui me demande ce matin, puis c'est ça qui m'a inspiré la chronique. Des fois, je change d'idée 3-4 fois avant que j'envoie ça à Pascal, mon idée finale. Qu'est-ce que je fais? C'était 150 000. C'est peut-être un peu plus réaliste comme montant qui pourrait arriver. 150 000, je fais quoi avec ce qu'on vit présentement? Mais ça n'a rien à voir. C'est dans combien de temps, ta retraite? C'est dans combien de temps? C'est pour 20, 25 ans, 30 ans. Ça n'a rien à voir. Tu m'aurais dit la même chose en 2002, 2003, avec ce qu'on vit présentement. Ou si je peux investir en 2008, tu m'aurais dit, ben là, avec tout ce qui se passe, dans quoi on pourrait investir? Tu m'aurais dit ça aussi en 2012, tu m'aurais dit ça. C'est parce que des crises, veux-tu que je t'en nomme des crises?
Il y a tout le temps le temps d'investir.
Il y a eu ça, des crises depuis 100
ans. C'est tout le temps d'investir. Puis là, tu sais...
Si on a du temps, oui.
L'autre semaine d'avant, je paniquais. Là, deux semaines, je paniquais. Chaque fois que Elon Musk parlait, je voyais l'action de Tesla descendre. Puis là, la semaine passée, je me suis dit, je vais faire ce que Warren Buffett m'a dit de faire, c'est-à-dire de magasiner un rabais. Puis là, je me suis racheté des actions de Tesla.
Il était à veille d'aller effacer graffiti là, ces Tesla de tout le monde.
Cette semaine,
là, ça a monté,
je passe pour un génie.
28 % ça a pris. Là.
Exact.
Ouais.
Hey, on est rendu à 30 %
parce que. Je passe pas pour un génie. Je m'excuse, mais je comprends.
Là, deux semaines, j'étais en dépression. Puis là, cette semaine, quand je me regarde dans le miroir, avec l'achat de Tesla la semaine passée, je me dis, tabarouette, je suis peut-être un génie.
Tu es en train de te dire qu'elle a, mais ça, c'est.
J'ai récupéré
ce que on entend souvent c'est ça. Dans une crise, tu attends, ben tu vas pas voir. Tu...
Parce que là, dans son cas, je sais qu'il est exagéré en parlant de dépression, mais il y en a que c'est vraiment ça. Fait que là, si tes émotions sont encore plus volatiles. Que le titre boursier, t'es peut-être pas à bonne place aussi. Il faut apprendre à se connaître. Et c'est bien ce que tu as fait parce que on ne dit pas d'acheter Tesla, peu importe, il n'y a pas de recommandation comme tel sur un titre, mais en même temps, tu te poses la question, est-ce que Tesla pourrait faire faillite dans 5 ans? Est-ce que Tesla pourrait faire faillite dans 10 ans? Quel est le potentiel? Et tu regardes le cours bénéfice qui est très, très, très élevé. Donc là, tu peux le voir de deux manières. Tu dis, il est cher le titre de Tesla, mais en même temps, il est valorisé. Il y a quelque chose qui s'en vient plus tard. Fait que là, tu as fait un dollar cost averaging, DCA. Par exemple, ton coût moyen d'acquisition était de temps. Et là, en mettant un montant qui a fait baisser le coût moyen d'acquisition sur ton titre, et tu t'es repositionné. Ouais. Mais l'émotion.
Mais là, je surveille ses tweets parce que dès qu'il en fait un, si je vends tout de suite.
Mais c'est peut-être ça qu'il faut pas qu'il fasse,
pas, il faut peut-être pas vendre en panique. Et l'argent que tu as mis dans ce titre-là, tu t'es positionné encore plus solidement. Bien, tu ne l'as pas fait pour être riche lundi prochain non plus. C'est une stratégie à moyen et long terme. Ici, les enfants ont besoin de nouvelles bottes. Bien, ce ne sera pas d'aller décaisser l'argent dans Tesla pour acheter des nouvelles bottes. Fait qu'il faut comprendre aussi qu'il y a de l'argent investi sur les marchés boursiers. Moi, à mon avis, puis je me permets de l'affirmer ici, là, c'est quand vous investissez sur les marchés boursiers, 5 ans et plus d'horizon de placement, au moins 5 ans et plus.
Sinon, ça ne vaut pas la peine.
Ben, si c'est de l'argent que vous avez besoin à l'automne et à l'été, à court terme, bien certainement que ce n'est pas une période pour commencer à se positionner pour être riche au mois de septembre. C'est sûr que ce n'est pas une bonne période pour ça.
Ça dépend tout le temps quel produit
tu
achètes.
C'est quoi l'horizon de placement? C'est quoi le produit? C'est-tu? Puis en même temps, là, tu as tout l'aspect fiscal. Ouais. Dans quel régime tu es investi, de un. Après ça, ton régime fiscal, que ce soit REER, CELI, CELIAP, REE, FER, name it. Et après ça, quel produit tu vas composer là-dedans selon tes émotions? Est-ce qu'il va avoir plus d'obligations, plus d'actions? Ton exposition va être vers quoi? Est-ce que tu vas acheter du marché? Si tu achètes du marché, bien, est-ce que tu vas acheter Nasdaq? Tu vas acheter le S&P 500? Moi, j'étais en Europe beaucoup. J'étais allé mondial l'automne passé. Je n'avais parlé ici en Onde. J'ai dit, j'optais un petit peu plus pour mondial. Je sentais que le S&P 500 m'en avait donné quand même pas pire. Alors, je suis allé vers le mondial, puis je me suis dit, ça va tellement mal en Europe, ça peut juste commencer à bien aller. Et depuis le début de l'année, on voit qu'il y a des capitaux qui se sont déplacés vers l'Europe. Est-ce qu'à la fin de l'année, je vais vous dire, j'ai fait un bon coup finalement, j'ai bien fait suivre les conseils de mon beau-frère? Peut-être pas, mais là, présentement, je suis mieux.
Ça t'a donné raison.
Ben, ça m'a donné raison depuis le début de l'année. Il y a toujours une partie... une partie du monde qui va bien ou qui va aller bien. Et là, les gens pensent que l'Europe va monter, pensent que les marchés émergents vont nous en donner, pensent que les États-Unis sont à bout de souffle. Le Canada, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec la pression qu'on retrouve. Bien, il ne faut pas mélanger non plus l'économie et la finance. Des fois, c'est corrélé, des fois, ça ne l'est pas. Fait que c'est de faire la part des choses dans tout ça, mais faites-vous conseiller.
C'est encore le temps, selon toi, d'investir en immobilier? Mettons pour Pascal qui voudrait commencer en immobilier, acheter un genre de 3 logements ou un 4 logements.
Pascal, qu'est-ce qu'on
J'essaie
fait?
De l'aider.
Qu'est-ce qu'on fait avec Pascal?
L'immobilier. Tout le monde se demande ça maintenant.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait? L'immobilier, acheter de l'immobilier en ce moment, évidemment, on arrive dans un marché élevé.
Oui.
Mais dans 10 ans, on va se reparler, puis vous n'allez pas vous
avoir perdu.
Peut-être pas planté, là. Je suis à peu près
convaincu.
Sauf qu'il convaincu.
Faut que tu sois prêt à changer ton style de vie.
Il faut le supporter.
Pas à peu près, là.
Il faut le supporter dans une période où ça risque quand même d'être assez coûteux mensuellement. Il faut être capable de... Puis c'est bien que tu me parles d'immobilier, parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit le montant qu'il y avait à la banque, à la caisse, qu'il pouvait emprunter. Je ne me souviens plus si c'était la banque, la caisse, pas grave, même principe. Mais ça donnait à peu près 4 fois et demi ce qu'il allait emprunter. C'est trois fois. C'est trois fois qu'on recommande. Mm-hmm. On recommande. Moi, je ne recommande plus rien, j'étais à la retraite. Mais nos planificateurs qui nous entendent, les gens qui sont dans le conseil financier, normalement, on va prendre une règle du pouce de trois fois le revenu. Tu sais, le revenu brut de ménage. Ouais. Fait qu'à partir de là, ça veut dire que même si tu dis, ben c'est un peu coûteux mon bien immobilier, mais je m'étouffe pas, j'étais à trois fois les revenus bruts. Puis, à un moment donné, avec le temps, l'inflation, parce qu'un bien immobilier suit l'inflation. Donc, c'est quand même, l'inflation, c'est quand même une notion à comprendre.
Il y a des moments où je suis bien confiante, puis il y a des moments où je me dis que ça va être plus facile si je me trouve un prince arabe.
Ben, là, c'est qu'un prince du Nunavut, puis ça n'a pas fonctionné.
Oui, c'est sûr qu'avec un prince, ça peut aider.
J'ai de la misère à passer par-dessus.
Mais
il y a des rois, des fois, qui grimpent le Kilimanjaro. Il y a peut-être des chances.
Mais tu sais, moi, je reviens à la question, ouais. Je reviens à la question de bord. Pourquoi vouloir s'acheter quelque chose à tout prix? On n'est pas obligé non plus.
Mais c'est ce que je me suis fait dire, que pour le moment, dans la vie que je mène par rapport à mes finances, auxquelles je me suis quand même occupée dans les dernières années et autres, la course à l'immobilier n'est pas nécessairement la seule solution à mon portefeuille financier.
Mais non, c'est pas la seule solution. Mais c'est souvent les gens qui vont te donner des... Moi, j'aime bien m'entourer de gens qui sont professionnels. Oui. J'aime bien quand la personne qui me donne des conseils est dans une meilleure position que la mienne.
Assurément. Mais là, je peux aller voir sur la rue Saint-Roch, dans Saint-Joseph.
Hey, je viens de là. Fais attention à ce que tu vas dire. Mais souvent, les gens qui sont portés à donner des conseils, là... C'est souvent des gens qui n'ont pas appliqué les conseils qu'ils sont en train de te donner.
Exact.
Fait que tu disais un peu. Là,
ou qui auraient aimé appliquer ces conseils-là.
Il y a ça aussi. Mais moi, j'aime bien les gens qui ont connu le succès en immobilier, qui me disent « Yann, achète tel immeuble, puis si tu le revalorises, d'après moi, tu devrais être capable d'avoir une bonne valeur de revente ou tu peux le garder pendant des années, ça va te revenir dans les poches plus tard. » J'aime bien regarder le background de ces gens-là. Parce que trop souvent, les gens qui vont te donner des conseils, « Hey, c'est pas le temps de faire ça. » Tu t'aperçois que ce gars-là ou cette fille-là n'a jamais investi dans rien. Puis finalement, ben, il vit à la semaine comme la plupart des gens. Puis il est dans son logement ou dans sa petite maison.
Exact.
Il n'y a pas de valeur derrière lui. Tu sais.
Mais le nerf de la guerre dans tout ça, là, c'est la liquidité. Si tu as la liquidité pour supporter un bien immobilier, peu importe combien il te coûte, si la valeur intrinsèque, puis ce que ça peut rapporter plus tard, puis premièrement, ça te loge. Tu sais, on oublie ça, là, mais c'est un besoin primaire. Bien, si ça est comblé, puis tu as assez de liquidité, puis finalement, tu es capable de subvenir à tes besoins, puis tu t'étouffes pas, c'est bien correct. Mais si tu es obligé de trop t'étirer, puis de te priver de toutes sortes d'affaires parce que tu veux avoir une maison à tout prix, parce qu'une maison à tout prix, c'est quand même coûteux, une maison, tu sais, parce que c'est quand même plus de frais que d'autres choses quand tu l'évalues.
Il faut que tu t'en occupes.
Il faut vraiment que tu l'entretiennes.
C'est long.
Et le fameux 1%, 2% de la valeur que tu dois mettre de côté parce qu'éventuellement, ça va être la toiture, les fenêtres.
Exact.
Tu es obligé de garder la valeur. Quand tu signes chez le notaire, il y a une place qui a dit « tu acceptes parce que tu es obligé de faire tout ce qu'il y a à faire sur ta maison pour conserver la valeur parce que le prêteur, sur l'acte d'hypothèque, le prêteur va l'exiger. » Alors ça nécessite quoi? 1%, 2% de la valeur, 3-4 000 piastres, des fois 5 000 piastres par année juste pour mettre de côté comme fonds de prévoyance. On fait un lien avec, mettons, les condos. Fonds de prévoyance. Puis après ça, tu as ton hypothèque qui va te coûter 2 000 quelques. Et là, tu ajoutes à ça tous les frais qui représentent plusieurs centaines de dollars en moyenne. Tout ça combiné par mois, ça vient manger un budget. Là, tu dis, OK, mais le bien immobilier va suivre l'inflation. Dans 10 ans, je vais me taper ses cuisses. Dans 15 ans, je vais me taper ses cuisses. Peut-être. Mais dans les 3, 4, 5 prochaines années, vas-tu être heureux?
Exact.
Ça répond-tu à ton besoin? Fait qu'il y a tout l'équilibre à faire dans tout ça. Hein?
Pascal, j'ai un prince du Kilimanjaro, prince Mamadou, qui m'écrit actuellement, qui dit qu'il est disponible pour une jeune américaine, donc le continent
canadien.
Américain.
Oui, hein? Mamadou, c'est mon livreur d'Amazon.
Mamadou?
Ben, c'est ça qui est écrit quand je reçois.
Mais bref, il m'écrit et il me dit qu'il a besoin de 2 000 $ de ta part pour libérer sa fortune familiale.
Ah, ben oui. Mais voilà. Écoute, récemment,
John Mayer... Ça s'appelle une opportunité d'affaires.
Récemment, John Mayer et Brad Pitt m'ont contacté sur Instagram, fait que c'est sûr qu'ils tombent en troisième position, là. Mais faudrait que tu me donnes ma dot, Yannick, si jamais j'ai à me marier avec un prince...
C'est moi, faut
de Dubaï.
Puis, mais ben, Brad Pitt est avec une Française maintenant, là, me semble. Hein? Non, c'est pas ça que j'ai entendu.
L'autre chose, le taux hypothécaire actuel, tu gardes ça de taux fixe? Toi? Mettons que c'est toi, là. Tu gardes ça de taux fixe ou tu y vas avec un taux variable?
Si c'est moi, c'est le taux variable. Mais encore là, je vais être tannant avec mon fameux profil d'investisseur, ta personnalité, puis comment que tu t'embarques financièrement dans ta maison. Mais normalement, le taux variable... Tu es supposé d'être capable de le supporter dans le sens que tu vas respecter trois fois ton revenu brut avec idéalement 20 % de comptant sur une maison. Je le sais qu'il y en a qui m'entendent. Je vais me provoquer, là. Je le fais un petit peu ici quand je viens, je m'amuse. Il dit, ben ouais, 20 % puis la maison va coûter 400-500 000. Combien faut que je gagne trois fois? T'sais, je gagne pas 150, je gagne pas 200. Je le sais. Ben c'est ça. Il faut des fois peut-être réaliser que vous n'avez pas les moyens d'avoir une maison. Aujourd'hui, là, c'est plate à dire, mais avec 55-60 000, qui est un revenu moyen, as-tu les moyens d'avoir une maison?
Ça pourrait
c'est
être
difficile. Ça courtier hypothécaire va te dire, je vais travailler ça, ton dossier. Demain ouais. L'après-midi, il m'a arrivé quelque chose. Mais c'est difficile.
Mais t'es pas à l'abri d'un Bruno Marchand, là.
Puis t'auras pas de lousse.
T'es pas à l'abri de Bruno Marchand qui.
Ben les taxes.
Va arriver en place. Puis, ben voici là. Les augmentations.
T'as pas de contrôle là-dessus, non, Yann. T'as tout à fait raison. C'est un bon point, là.
Fait que c'est tough, mais je te suis pour ce qui est du taux variable. Par rapport à ça, c'est pas une recommandation, là.
Non.
J'irai avec le taux variable, puis je vais me fier sur mon chum Simon. Simon Laberge, que j'ai rencontré il y a de ça quelques années, oui. Qui m'avait dit, tu sais, Yann. Parce que j'y parlais du taux fixe puis du taux variable. Lui, il a toujours été au taux variable. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le taux, exemple, en vogue chez Desjardins. Mettons que le taux en vogue actuellement chez Desjardins, le taux fixe là, était à 4,59. Puis le taux variable, il était à 4,45. Il n'y a pas une grosse différence.
Ouais.
Ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait le taux variable, mais le restant... Il faisait travailler cet argent-là.
Tout à fait.
Puis à partir du moment où ça l'augmentait, comme ça l'augmentait les dernières années, bien, l'argent qu'il aura travaillé pour lui pendant des années, qu'il n'aura pas donné à Desjardins pour l'hypothèque,
mm-hmm.
Je ne dis pas qu'il était chez Desjardins, là,
ouais, ouais.
Bien, il va avoir travaillé puis il va être capable de compenser pour la montée du taux variable les dernières années.
Il va l'appliquer. Mais le taux variable,
ça génial.
C'est très bien. Puis oui, puis Simon, il est sage financièrement, là, je le connais un peu. C'est très bien parce qu'il faut comprendre là, que le taux variable, écoute là, quand tu cancelles une hypothèque fixe, là, parce que le couple se sépare, là, ça arrive. Hein? Dans 47 % des cas, là, ça arrive.
À main levée, là, tout le monde.
Le couple se sépare. Deuxième année, taux fixe. 5 % de comptant. C'est des 12, 13 000, 15 000. J'ai vu des 8 000. J'ai vu ça dépend du produit hypothécaire que tu as. Il y a 100 produits hypothécaires différents. Non, il y a juste variable fixe. Il y a 100 produits hypothécaires différents. Alors, des fois, tu dis, bien, le variable, le fixe, mais le fixe, il va être coûteux en pénalité si tu as à annuler parce que tu te sépares ou peu importe, tu peux avoir toutes sortes de situations, alors que le variable donne beaucoup de flexibilité. Souvent, c'est 3 mois d'intérêt, beaucoup plus simple à annuler ou à modifier. Et ton variable, ben, tu peux le fixer aussi.
Mm-hmm.
Puis le fixe, ben, tu peux avoir ouvert et fermé. Donc, si tu as un fixe ouvert, ben, ça veut dire que tu peux remettre de l'argent dedans. Et le variable ben, peut te donner de la flexibilité, mais le variable, on part du taux directeur, on s'en va au taux préférentiel, on descend un peu, taux directeur plus 2 % taux préférentiel à peu près, on descend du taux préférentiel, on va avoir le taux variable, alors que le taux fixe est basé sur les obligations 5 ans. Fait que là, c'est la tendance pour les obligations 5 ans ou la tendance du taux directeur pour le variable. Fait que là, tu regardes un peu les tendances. Ça, on peut regarder ça à moyen terme, parce que ça a de l'impact sur les prochains mois de paiement. Puis c'est de l'évaluer, puis c'est de connaître son profil d'investisseur. Si jamais ça montait comme ça montait avant, on serait-tu capable de le supporter? Vous allez faire ce qu'on appelle un stress test, 2 % de plus pour voir si ça fonctionne, si ça passe. Mais le taux variable, vous allez toujours avoir ce qui est le meilleur, contrairement au fixe, où il y a beaucoup de compétition entre les institutions financières et le fixe, ça varie beaucoup. Le variable, normalement, la plupart des institutions financières ont taux préférentiel moins un pourcentage qui va te donner le variable à peu près partout pareil.
Pat Raymond, c'est toujours un plaisir. On te rejoint sur le podcast Financièrement parlant.
Oui,
on parle
absolument.
D'argent.
Bon. Toujours.
Puis Mamadou attend toujours le transfert de 2 000 Pascal.
Ah, OK. Ben ouais.
Il l'a pas fait encore?
Ta chance de tomber sur un prince milliardaire.
Je sais pas, ça pourrait être quoi la question, hein? À répondre là, pour avoir le virement.
C'est une bonne question.
Tu vas attendre longtemps, puis...
C'est dépôt direct?
Ouais, peut-être.
Marceau.